L'ami d'une de mes sœurs venait de faire fortune en vendant sa société. Il venait de gagner beaucoup d'argent. Et je lui dis, mais maintenant, tu dois être heureux, maintenant que tu as gagné tout cet argent. Et il m'a répondu non. Je suis passé d'un emploi, d'un poste de PDG sur Bouquet à rien du tout. Et moi, en fait, je m'étais aussi tellement identifié à mon poste de PDG que j'en étais venu à associer ma valeur personnelle proportionnelle à évaluer en fait ma valeur personnelle proportionnelle à mon salaire. Et là, tout d'un coup, comme je gagnais plus rien, en fait, à mes yeux, je ne valais plus rien. Et puis alors, la sécurité, l'argent, etc., elle devient une conséquence, mais n'est plus un but. Je trouve un vrai bonheur à faire des choses plus simples. Mais je pense aussi, toi, quand un restaurateur est passionné, tu as envie d'aller chez un restaurateur qui est passionné par son métier, plutôt que chez un restaurateur qui a envie de faire du blé. Et je pense que notre notion même du bonheur doit évoluer. Tant il y a la peur de dire, ben, j'arrête quelque chose qui marche bien, est-ce que c'est le vide derrière, donc je vais encore faire un petit peu, ou ouais, il faut que l'envie soit plus forte à un moment donné aussi que la peur.
Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleecho.com/podcast. Allez, c'est parti.
Paul Devendre, bonjour. Je suis très content
Salut Richard.
de t'accueillir ici.
Merci.
Parce que j'étais connu, on en reparlera, mais avec ton spectacle, Les hommes
Ouais.
viennent de Mars et les femmes de Vénus, comme
Un grand
beaucoup d'entre
classique,
nous.
ouais.
Voilà, par ma femme.
Tu m'as reconnu? Non, tu m'as reconnu.
Par ma femme, bien
Ben,
évidemment.
évidemment.
Aujourd'hui, tu reviens avec un nouveau spectacle, de nouveaux projets. Et les gens savent pas aussi que tu as eu une vie d'entrepreneur, et d'ailleurs sous différentes formes. Donc voilà, c'est pour parler de tout ça. Alors déjà, les hommes et les femmes, les hommes viennent de
De
Mars et
Mars.
les femmes de Vénus.
Ouais.
Comment t'en es arrivé là?
Que je commence où? J'ai jamais fait de spectacle avant, j'étais jamais monté sur scène. En fait, je suis tombé sur une conférence de John Gray, l'auteur du livre Mars et Vénus, aux États-Unis en 96. Le livre venait de sortir aux États-Unis, c'était pas du tout connu en France encore. J'étais un peu sceptique, il y avait plein de thèmes différents. C'était un séminaire avec des différents thèmes, comme il y avait Deepak Chopra qui parlait sur la méditation et tout ça. Enfin, il y avait pas mal de thèmes. Et il y avait John Gray qui parlait des hommes et des femmes. J'étais un peu sceptique au départ par rapport à ça. Je me disais que c'était sûrement pour tous ces Américains qui ont déjà divorcé 4 fois, ça ne devait pas correspondre à notre culture européenne. Enfin, j'étais comme toi, tu vois. C'est pas un mec qui va m'expliquer comment faire. J'étais marié depuis 3 ans à l'époque. Je m'entendais très bien avec Corinne, et donc on n'avait pas de problème particulier. En 3 ans, on n'a pas encore eu le temps d'avoir trop de problèmes. Hein, donc c'est. Et pourtant, mais j'ai adoré ce que j'ai entendu en fait ce soir-là, parce que j'ai compris plein de trucs, notamment pourquoi une femme peut être debout devant sa garde-robe pendant 10 minutes et sérieusement nous dire
Je
j'ai
sais
rien
pas
à me
quoi mettre,
mettre,
j'ai rien
voilà,
à me
j'ai rien à me
mettre. Alors
mettre,
qu'il y en a
voilà.
un.
La penderie est pleine à craquer. Dit, mais pour... Et là, moi, avant, c'était, mais pourquoi tu mens? Enfin, regarde, ta garde-robe est pleine. Et elle me disait toujours, mais non, mais hein, tu comprends pas, c'est pas ce que je veux te dire. J'ai dit, mais moi, je vois ce que je vois, quoi.
J'ai compté, moi.
Je suis compté, je vois. Et donc, ça, c'est pas des petites, c'est pas très grave, c'est des petites discussions, des petits énervements comme ça, simplement sur une incompréhension. Et donc j'ai compris ce soir-là que quand une femme disait j'ai rien à mettre, en fait elle dit pas il y a pas de vêtements dans mon armoire, elle le voit comme nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'habille en fonction de l'humeur dans laquelle elle est. Et donc quand elle dit j'ai rien à mettre, en fait ce qu'elle dit réellement, c'est j'ai rien qui corresponde à l'humeur dans laquelle je suis ce matin. Et elle se parle plus à elle-même qu'à nous. Et donc en fait j'ai compris plein de trucs comme ça. Alors, et ça m'a vraiment touché parce que j'ai été élevé dans un environnement très féminin parce que mes parents se sont séparés à ma naissance, mais mon père est parti avec sa secrétaire quand ma mère était enceinte de moi. Et donc, j'ai grandi avec ma mère et 3 grandes sœurs. Donc, un environnement très féminin. J'ai pas eu beaucoup de figures paternelles. Et je me sentais souvent très différent, un peu dans cette fratrie-là. Et comprendre que c'était juste parce que j'étais un mec, en fait, et comprendre cette logique différente et tout m'a vraiment très fort interpellé. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu envie d'en parler autour de moi. Et donc, je suis rentré, j'ai acheté les livres et les cassettes de John Gray. Et puis, j'ai commencé à bouquiner tout ça, à écouter tout ça en boucle. Et puis, j'ai recontacté John Gray en disant, j'ai envie de diffuser ces idées en français, est-ce qu'il y aurait moyen ou pas? Et il m'a répondu en disant, oui, pourquoi pas, on pourrait faire des choses. Donc, je suis retourné aux États-Unis, j'ai travaillé avec lui, j'ai créé des ateliers de communication sur ce thème en Europe. Je suis rentré en entreprise aussi, j'ai fait beaucoup de choses sur les questions de parité, d'égalité, tout ça. Mais comme je suis pas psy au départ, c'est toujours un côté un peu ludique et marrant. Et beaucoup de gens me disaient, ah, c'est marrant ce que tu racontes, tu pourrais passer dans un café-théâtre. Et c'est comme ça que l'idée a germé. Mais je connaissais personne dans le monde du spectacle, j'ai jamais été avant. Et donc petit à petit l'idée s'est construite. Et donc j'ai commencé dans un petit café-théâtre à Marseille. Et puis après, ben, il y a eu un succès incroyable puisque ce spectacle, je l'ai joué plus de 2000 fois. Il y a eu 2 millions de spectateurs. Enfin, c'était moi, je suis pas très connu. Ma tête est pas très connue, mais le spectacle est vraiment a été très très connu.
C'est
quoi.
Toi qui c'est bien, c'est un one man show.
C'est un one man show, mais les gens connaissaient le one man show. Les hommes de Mars et femmes de Vénus, mais ils ne connaissent pas tous mon nom et tout ça. Donc c'est assez assez marrant. Il y a un humoriste un jour qui m'a dit, en fait, toi, tu as le rêve de toute personne, c'est que tu remplis des zéniths, mais que personne ne te reconnaît dans la rue.
Je trouvais là. Les gens ne t'arrêtent pas dans la rue?
Non. C'est assez rare.
Parce que pourtant, tu as tourné.
Pourtant, j'ai beaucoup tourné, oui. Mais les gens, en fait.
10 ans, tu as tourné.
J'ai tourné 10, 12 ans, oui. Mais les gens, en fait, on se souvient de la pièce, de ce qu'on a vu, mais. Enfin, c'est pas une performance sur scène qui est exceptionnelle. Je raconte des histoires et les gens ont adoré parce qu'ils se retrouvaient dans tout ce que je raconte. Moi, c'est ça que j'ai. Et j'étais sur scène pas pour être en avant sur le devant de la scène, mais avant tout parce que je me suis dit que la scène était un bon moyen de toucher un public de manière drôle et ludique. Voilà. Et les gens, tu vois, à la sortie, préféraient parler entre eux plutôt que de venir me parler. Donc c'était j'ai adoré, hein, c'est pas du tout mais donc c'est là où tu vois, je suis en même temps, je suis complètement dans le showbiz et en même temps j'ai une place un petit peu particulière.
Et ce qui est intéressant là, dans cette première partie que tu nous racontes, c'est que John Gray pour toi c'était quelqu'un d'inaccessible parce que connu, parce que conférencier, parce que ci, parce que ça. Et puis c'est quelqu'un que tu appréciais beaucoup, donc du coup tu te dis, ah, le mec il est génial. Et en fait tu pensais pas qu'il puisse te répondre.
C'est l'idée de l'entrepreneur, c'est en fait, c'est à un moment donné, c'est de prendre des risques ou de se dire que pourquoi pas tenter sa chance. Et c'est vrai que pour le recontacter, je savais pas du tout comment faire, hein. Quand je l'ai vu, il y avait 1000 personnes dans la salle, j'étais une des 1000 personnes qui étaient là. Je suis rentré en France et je me suis dit, si j'envoie une lettre, il va se foutre de ma gueule. Il n'y avait pas encore d'internet, il n'y avait pas encore de, et donc il y avait l'adresse de son éditeur ou d'un bureau là-bas. Je me suis dit, si j'envoie juste une lettre, ça va pas. Il faut que je tente un peu plus quelque chose d'un peu plus fort pour essayer de me faire démarquer peut-être. Et j'ai demandé à des copains j'ai loué une salle dans un hôtel, une petite salle. J'ai demandé à des copains de venir en me disant, mais écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, ne posez pas de questions ou quoi, venez.
Combien de copains?
Et il y en avait 80 qui sont venus. Il me fallait quand même une bonne bande pour
plutôt sociable.
Créer un peu de l'ambiance. Oui, j'avais que deux, trois. Maintenant, après, je l'aurais fait 2 jours après, il n'y aurait plus personne. Hein, mais bon, et donc, c'était très sympa. Et donc, j'ai fait une cassette audio de cette conférence. Et je me dis, si j'envoie une cassette audio, il voit quand même ce que je suis capable de faire. Et donc, peut-être que j'aurai plus de chances qu'il me recontacte.
Vidéo ou audio?
Audio.
Audio. Et il entendait les 80 personnes, enfin, tu vois ce que je veux
dire? Et il y a eu un peu des retours, oui. Il y avait un peu de brouhaha, des applaudissements et des rires et tout ça. Enfin, il y avait un petit peu de monde là-dedans. Parce que les audios, c'était encore... Enfin, oui. C'était, est-ce que c'est VHS, Betamax, enfin, c'était encore tous les vieux systèmes, c'était pas les mêmes. Donc je me suis dit, audio, au moins il met ça dans sa bagnole et il écoutera plus facilement. Et donc c'est comme ça, et justement, en fait, ça aussi c'est les hasards de la vie où il faut voir les choses se mettent en place ou elles se mettent pas. Mais
tu l'as fait en anglais ou en français?
Je l'ai fait en français, mais après j'ai écrit en anglais et tout. Mais il y avait quelqu'un dans son staff qui parlait français, et puis donc il a... Non, je savais pas. Et j'imaginais. Mais au moins je me dis, mais s'il a une cassette, c'est déjà un peu rigolo, il entend, il voit le débit, même s'il comprend pas, peut-être qu'il va... Voilà, mais c'était une bouteille à la mer, quoi, pour essayer de me faire remarquer un petit peu.
Et quel retour il t'en a fait, lui, de cette démarche?
Et
après,
démarche,
t'as bien dû lui demander, alors...
Ouais, mais la démarche, il a trouvé ça sympa. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il était justement aux États-Unis en train de créer une école de formation, parce que j'étais pas le seul à faire cette démarche-là. Je le savais pas, mais aux États-Unis, il y avait quelques personnes qui avaient eu envie de la même démarche que moi de partager ce message. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait mis un cours sur vidéocassette. Il s'est enregistré une journée de formation qu'il organisait. Et il voulait former des gens pour mettre la cassette pendant 2 heures et puis faire un petit exercice ensemble et puis remettre la cassette. Donc, c'est au moins le message n'était pas complètement distordu, parce que c'est vrai que la difficulté de ça, c'est est-ce que les gens qui vont en parler de la bonne manière et tout ça. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, en fait, il était en train de monter ça, et donc il m'a dit, viens... Tu peux venir pour cette formation-là. Mais moi, j'ai dit, bon, cette formation-là, ça va, je vais pas aller mettre une cassette d'un Américain en France, ça va jamais marcher. Et puis on a discuté, et puis j'ai passé un peu de temps avec lui. Il m'a dit, ok, ben vas-y, fais
ça va,
je te fais confiance, fais à ta sauce. Et puis pour lui aussi, c'était un projet en France. Enfin,
Ouais, la
il
n'avait
pas grand chose à foutre, quoi.
Tu aurais dit que c'était la Corée du Sud, c'est pareil, quoi.
C'était, voilà, c'était un peu. Donc, vas-y. Mais c'est comme ça aussi avec le spectacle. Enfin, quand j'ai eu l'idée du spectacle, j'ai été le voir pour lui dire est-ce que tu me donnes les droits pour le titre, parce que c'était important. Et là aussi, il m'a dit oui, évidemment, vas-y, mais il n'y croyait pas des masses. Et puis quand je suis revenu un petit peu plus tard et qu'il a vu le truc, il s'est dit ah oui, chouette.
Ouais, j'ai fait 5 millions.
Non, il était très glad, il m'a pris au sérieux. Là, il m'a pris au sérieux. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'est jamais venu me voir aussi, voir le show. Et à un moment donné, je lui ai demandé, mais tu n'es jamais venu parce que tu t'en fous ou tu me fais confiance? Il m'a dit, parce que je te fais confiance. J'ai dit, bonne réponse. Je ne sais pas si c'est vrai, mais...
Et ça, c'est marrant parce que globalement, je pense que les gens ont tendance à sous-estimer. Quand on a quelqu'un de connu qu'on apprécie, on se dit, mais il ne me répondra jamais.
Ouais.
Et moi, je me souviens toujours de l'exemple de Rachida Dati, donc, qui est une politicienne, je ne sais pas si elle est encore en activité, je ne sais plus. Enfin, bon. Mais ce qui est marrant, c'est son parcours, puisqu'en fait, elle était en école d'infirmière, je crois, et d'une famille modeste. Et en fait, pour financer ses études, elle voulait faire, je ne sais plus quoi, Sciences Po ou j'en sais rien. Elle avait pris la liste des milliardaires dans Forbes, et elle avait écrit des lettres aux gars en disant « Je suis une jeune motivée, sponsorisez-moi, parrainez-moi, aidez-moi. » Et j'enverrai tout ce que je veux. Ouais. Le truc complètement improbable. Et je sais plus quel est le milliardaire, si c'est Lagardère ou un truc. Un mec comme ça qui lui a filé le pognon en disant, t'es la seule. Ouais. T'es une des seules qui m'écrit. Et moi, j'ai fait la même chose avec Charles Gave, avec les gens que j'interviewais. Mm-hmm. Et en fait, je pense que les gens motivés, qui veulent s'adresser à des gens
qu'ils admirent ou qu'ils apprécient ou avec lesquels ils pourraient
faire quelque chose. Qu'ils ont du respect et tout. En réalité, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, allez-y. Si ça vous tente, il peut y avoir des projets comme ça qui se montent, quoi. Et du coup, je me dis, tiens, Paul, ça doit lui parler.
Moi, j'ai appris ça pendant mes études, où j'avais organisé un concours boursier. Au niveau national, où l'idée c'était de donner un portefeuille fictif aux étudiants, et puis donc on y avait un portefeuille des actions qu'on suivait, et puis elles montaient, elles descendaient, ils achetaient ou ils vendaient fictivement, et puis à la fin on voyait des trois mois, on voyait qui avait le portefeuille le plus important, et il y avait un prix. Et donc j'avais contacté une des banques, j'avais contacté en fait le directeur général c'était la BBL, la Banque Bruxelles Lambert, maintenant c'est ING qui était racheté.
Parce que tu es belge.
On est belge, je suis belge. Et donc, je me suis rendu compte de la facilité avec laquelle les gens, si tu veux, et plus à la limite, plus les gens ont des positions importantes, plus ils sont accessibles. Et si tu viens avec quelque chose d'intelligent, etc., en fait, les gens sont tout à fait prêts à te recevoir, ça prend 10 minutes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est ancré en moi, de me dire, n'aie pas peur de le faire. Puis au pire, c'est un non, et alors, quoi. Mais c'est vrai que c'est une des belles leçon de vie aussi, c'est d'oser de partir faire ce...
Mais pour de vrai, ça marche, quoi. C'est vraiment un truc facile à faire.
C'est facile à faire. Et surtout maintenant, avec LinkedIn, avec tout ça, en fait, c'est assez facile de pouvoir entrer en contact, ouais, les coordonnées des gens et tout ça. Donc, il faut avoir un peu de quelque chose à leur demander, hein, aussi, évidemment. Si on a un projet qui tient la route et tout ça, il faut y aller, oui, tout à fait.
Et du coup, ce spectacle, qu'est-ce que tu en fais? C'est-à-dire que ça marche, tu fais des vidéos, et au bout de 10 ans, tu te dis quoi? Tu te dis bon.
Et au bout de 10 ans,
je me dis... On va pas le faire 20 ans?
Ouais. Mais en fait, moi, le truc, c'est que je suis complètement néophyte. Quand j'arrive là-dedans, dans ce milieu-là, je n'ai aucune idée de comment ça marche. Et là, j'arrive et en quelques mois, je fais des salles de 5-6 000 personnes. Et donc, dans le milieu, il n'y a personne qui a jamais fait ça et personne ne comprend. Mais moi, je peux pas dire que c'est un exploit parce que j'ai pas vu ce que c'était avant. C'est pas de la fausse modestie ou quoi, mais c'est juste que je découvre un truc qui est un peu inhabituel, mais je ne sais pas que c'est inhabituel, en fait, c'est ça et donc moi je pensais toujours qu'un spectacle ça allait durer un an, deux ans, enfin j'ai jamais imaginé que ça pouvait durer autant de temps, et donc et donc chaque année, mais une année en plus et puis une année en plus et puis une année en plus, etc. Et puis et donc, mais le truc, j'ai beaucoup d'humoristes m'ont dit, moi, comment tu peux jouer ça autant de fois, parce que moi, au bout de 300 fois, mon spectacle, j'en ai marre de le jouer, parce que. Mais le truc, c'est que la raison pour laquelle je le fais, ce spectacle, en fait, c'était vraiment parce que moi, je pense que ce que je partageais dans ce show peut vraiment être utile, et je sais que ça a aidé du monde, et encore aujourd'hui, maintenant, tu vois, les DVD sont utilisés par des thérapeutes qui disent, regardez le DVD, puis on en reparle autour de nous, ou des prêtres pendant les préparations au mariage, des choses comme ça. Donc, il y avait vraiment, moi, une vraie volonté de partager quelque chose qui a du sens pour moi. Et donc, ça ne m'a pas lassé de le faire, même si c'est un métier. Voilà, c'est pas tous les jours.
Ça résonnait avec ton histoire et
ça résonnait avec
les gens.
Avec les gens et tout ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose de chouette à faire. Et puis à un moment donné, c'est vrai quand même, j'ai d'autres projets. Et puis le spectacle, c'est marrant. Enfin, pour moi, c'est que c'était compliqué de faire quelque chose d'autre pendant la journée. C'est difficile, tu vois, j'ai en tête, même si le texte, je le connais par cœur, et ouais, je sais comment ça va se passer, je sais que ça va bien se passer, donc j'ai pas peur, j'ai pas de trac et tout ça. Il y a un peu la fatigue accumulée du spectacle, les horaires sont un peu particuliers. C'est un peu le monde de la nuit et tout ça quand même, donc il y a quand même une fatigue qui s'accumule. Mais toute la journée, malgré tout, tu vois, quand on est en tournée, on roule 2-3 heures, on arrive, il y a 2 heures à attendre, et puis on fait les soundcheck, voir la salle et tout ça. Et puis, donc tu peux pas faire grand chose d'autre. En fait, c'est ça qui est un peu limitant peut-être par rapport à ça. Donc c'est gai de ressortir aussi pour préparer d'autres choses maintenant.
Donc du coup, tu as décidé d'arrêter ? Comment ça s'est... Comment t'arrêtes un
spectacle ? Et là maintenant,
comment tu dis ça me saoule, je fais autre chose ?
Non, oui, enfin c'est petit à petit, tu vois un petit peu comment on évolue.
Les salles se vident,
j'en avais fait. Les tournées maintenant, moi je commence à mettre un peu moins de dates quand même et tout ça. Et puis il y a eu j'ai refait une tournée avec. J'ai réinventé aussi à un moment donné le spectacle. Donc pendant 3 ans maintenant, j'ai tourné avec un des imitateurs des Guignols de l'info. Qui s'appelle Thierry Garcia, qui est excellent. Il a remplacé Nicolas Canteloup. C'est lui qui faisait la voix de François Hollande, le fameux tu vois, je précise. Et donc, lui est venu. Donc, tu vois, j'ai renouvelé un peu le spectacle quand même de temps en temps pour justement changer aussi ma manière. Et puis, il y avait des choses que j'avais envie de partager.
Et ça ne désemplissait pas.
Et sinon, c'était incroyable.
Et du coup, comment tu passes à un autre projet?
Mais c'est là, il y a une peur, c'est ça qui, tu vois, ce qui est marrant, c'est, il y a en même temps, il y a la peur de dire, ben, j'arrête quelque chose qui marche bien, c'est le vide derrière, donc je vais encore faire un petit peu, ou il faut que l'envie soit plus forte à un moment donné aussi, que la peur, et le projet sur lequel je me suis lancé maintenant, en fait, c'est un très très vieux projet, c'est une image que j'ai depuis plus de 20 ans en tête, et qui reste encore de plus en plus d'actualité et tout ça. Et je pensais jamais en faire un spectacle, mais en parlant justement à mon metteur en scène et tout ça, il dit on pourrait peut-être faire quelque chose de chouette avec ça aussi. Et donc le projet a commencé à prendre forme et tout. Et donc c'est assez motivant d'être.
Alors qu'est-ce que c'est ton nouveau?
Et ce nouveau projet, c'est un spectacle sur le bonheur maintenant. Donc parce que il y a pas que l'amour dans la vie, hein, y a aussi le sexe, non? Mais ça rejoint à l'amour quand même. Enfin pas toujours, mais bon de temps en temps. Mais le bonheur, effectivement, c'est quelque chose de plus intime et de plus personnel, mais c'est pas la même chose. Parce qu'effectivement, quand on est amoureux, on nage dans le bonheur, mais aussi l'amour peut aussi nous rendre très très malheureux. Donc on sait que c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que la question du bonheur est aussi est très très importante aujourd'hui. Et je crois même que ça fait partie des grosses réflexions qu'il faut entreprendre aujourd'hui par rapport à l'évolution de la société dans laquelle on est. Et je pense que notre notion même du bonheur doit évoluer. Pendant les 30 Glorieuses, la société de consommation, on était dans une certaine forme de bonheur, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut carrément changer notre notion du bonheur pour pouvoir s'adapter aux défis, notamment au réchauffement climatique qui est en train d'arriver. Donc ça peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais il y a un lien qui est très fort pour moi. Et donc partager ça de manière aussi drôle, ludique. Et donc j'ai écrit avec l'équipe des Guignols de l'info aussi, toi, pour garder vraiment à côté.
Ah, t'as écrit avec eux, avec Thierry Garcia?
Avec Thierry Garcia, donc qui est l'imitateur, mais avec des auteurs
des Guignols.
Gassio, non, c'est avec Patrick Lenoré. Qui a succédé à Gassio, qui est parti il y a quelques années. Mais Patrick a travaillé pendant 15 ans là-bas au Guignol, et donc c'est vraiment très très chouette. Donc on a des bonnes.
Et alors donc c'est le kayakisme.
Et alors c'est le kayakiste. L'idée du kayak, enfin, c'est comprendre en fait cette évolution de la société. J'avais imaginé cette image il y a plus de 20 ans maintenant. C'est que si tu imagines que la vie est un peu comme une expédition en kayak. Alors une kayak c'est sympa, on s'amuse bien et tout, mais malgré tout parfois il y a des rapides, il y a des courants et tout ça, on peut se laisser entraîner dans des chutes, et donc c'est un peu dangereux. Et il y a une énorme cascade, c'était la Deuxième Guerre mondiale, le monde est sorti complètement dévasté de cet épisode-là. Et à l'époque, à l'image des castors, en fait, les survivants se sont dit, on va plutôt construire un barrage sur la rivière pour vivre sur un lac à l'abri de tous ces courants et de ces rapides. Parce que tu demandes à quelqu'un qui vient de survivre par miracle au chute du Niagara de remonter en son kayak,
moyen,
probable qu'il te foute sa pagaie sur la tronche, quoi. Hein, tu vois, il a envie un peu il a besoin de respirer un petit coup, et je crois qu'on peut complètement le comprendre. Et donc, en fait, pendant les 30 Glorieuses, on a vécu à l'abri de ce barrage qui a été l'instauration de la sécurité sociale, le SMIC, les caisses de retraite, enfin, les fonds de pension, tous ces grands systèmes de solidarité collective qui ont été créés à la fin de la guerre. Et chacun vivait dans des parcelles, et la taille de la parcelle dépendait du salaire que tu gagnais. Il y avait les très belles parcelles dans les jolis criques, etc. Puis les parcelles très confortables de la bourgeoisie, les petites parcelles pavillonnaires de la classe moyenne, et puis les grands ensembles collectifs dédiés aux masses populaires. Et malgré tout, ceux qui étaient là, en fait, grâce à la croissance économique qui était liée au plan Marshall, à la reconstruction, au baby boom, au pétrole qui était bon marché, l'eau arrivait en abondance dans ce barrage. Et ce qui est une bonne nouvelle, parce que quand le niveau d'un lac monte, sa surface augmente. Et donc, ce qui permet à chacun d'agrandir, en fait, sa parcelle. Et donc, pour les 30 Glorieux, c'était l'idée du bonheur, c'était d'agrandir sa parcelle et de l'aménager le plus possible. Et donc, c'est comme ça que les instables kayaks se sont transformés en de confortables barques, hein, équipées de tout le confort qu'on qualifiait de moderne à l'époque. La voiture, la télévision, l'aspirateur, et tous ces trucs-là. Et donc, vraiment, on était heureux grâce à cette société de consommation. Et la publicité l'encourageait, évidemment, hein. Soyez heureux. Consommer le bonheur, c'est le coca, etc. Enfin, donc, c'était vraiment tous ces grands systèmes-là. Tu vois, à l'époque, quand un mari offrait un aspirateur à sa femme pour son anniversaire, elle était ravie. Hein. Essaye aujourd'hui, tu vas te prendre l'aspirateur dans la gueule. Et donc, c'est des détails comme ça qu'on voit que le monde a changé quand même.
Il y a des bases qui bougent.
Il y a quand même des plaques tectoniques qui se touchent, il faut faire attention. Mais donc, en fait, à l'époque, c'était quoi la recette d'une vie réussie à l'époque? En fait, c'était assez simple. C'était première étape, c'était obtenir un emploi qui te permette de se procurer une jolie parcelle. Et en période de plein emploi, c'était facile, hein, tu trouvais cette sécurité-là. Une fois que tu avais constitué ça, mais tu pouvais constituer une famille qui serait forcément heureuse puisqu'elle jouirait du confort de la parcelle. Et puis enfin, tu pourras enfin être fier de toi, de réussir à aménager, à agrandir régulièrement ta parcelle. En fait, ce schéma-là, c'est la pyramide de Maslow, hein, c'est la hiérarchisation des besoins humains, les besoins de sécurité de base. Après, il met les besoins de relationnel et puis l'estime de soi et l'accomplissement de soi. C'est un peu plus compliqué, mais on va
le schématiser. La cherry on the top, la cerise, voilà, sur, la cerise le gâteau, sur le gâteau,
c'est que... tu es fier de toi quand tu as réussi, quoi. Et moi, en fait, j'ai grandi. Moi, je vais vous le dire, j'ai 60 ans maintenant, 59. Mais, j'ai grandi dans cette idée-là. En fait, moi, on m'avait expliqué, tu dois bien travailler à l'école pour obtenir un diplôme qui te permettra de gagner l'argent dont tu auras besoin pour être heureux. Et comme c'est un peu compliqué de comprendre tous les enjeux d'une vie d'adulte quand on a 10 ans, et donc ma mère m'a expliqué de manière beaucoup plus simple. Elle m'avait dit « si t'as pas un beau bulletin à la fin de ton trimestre, c'est tout le restant de ta vie que tu fonds en l'air. » Et en plus, on m'avait dit que Dieu m'envoie en enfer si j'étais pas sage.
Double pression.
Double pression. T'avais pas envie de finir clochard ni rôti dans les flammes de l'enfer. Donc,
si je te rate,
tu faisais gaffe à ta gueule. Quoi, c'est ça. Et donc, ça donne pas envie de grandir, mais bon, c'est comme ça. Je sais pas si t'as vécu comme ça, mais je crois qu'on est... On est nombreux à être un peu dans cette idée-là. Et donc, c'est là où donc je suis rentré à l'université, puis j'ai fait mes études et tout. Et puis, à la sortie de mon école de commerce, j'ai eu la possibilité de créer une compagnie aérienne à Lille. En fait, j'ai eu deux propositions d'embauche à la sortie de mon école de commerce. La première, c'était un homme d'affaires suisse qui cherchait quelqu'un pour créer une compagnie aérienne à Liège. Et l'autre, c'était Unilever, c'est une grande multinationale mondialement connue qui fait où tu pouvais faire carrière.
De lessive, des parfums,
de la mayonnaise.
C'est le LVMH américain.
Non, c'est pas des produits de luxe. Hein. C'est large, quoi. C'est bonne luxe, enfin tous les produits de lessive et tout ça. Et donc évidemment, ma mère voulait que je dise, Unilever, c'est parfait, tu fais carrière, c'est sûr, c'est sécurisé, tout ça. Donc, enfin, choisis ça, évidemment. Et non, moi j'ai pris l'autre. Hein. J'ai pris la compagnie aérienne parce que je trouvais que ça me paraissait quand même plus excitant.
Tellement plus drôle.
C'est plus marrant et tout ça. C'était un peu plus risqué quand même, mais bon, c'était quand même plus excitant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à 26 ans, directeur général d'Ericsson, de ma compagnie aérienne. Alors, c'était génial au début, tu vois, parce que beau salaire, belle bagnole, voyage gratuit en première classe dans le monde entier, avec les accords de compagnie aérienne et tout ça. Donc j'étais. Et donc je me dis, c'est facile, on trouve facilement la parcelle, c'est génial. Voilà, j'ai déjà ma première parcelle, donc je me sentais assez une certaine réussite, etc. Tu vois, mais le problème, c'est que je me sentais pas heureux. Et ça m'interpellait parce que selon les standards avec lesquels j'avais grandi, normalement j'aurais dû l'être. Tu vois, j'étais à un poste où plein de gens rêveraient de terminer leur carrière et j'étais pas heureux, c'était pas normal. Tu vois. Et donc je me dis, bah, peut-être qu'il faut plus, il faut encore plus d'argent, une voiture encore plus allemande, ou je fais, je sais pas. Et au bout de 2 ans, en fait, j'ai une première début de réponse là-dessus, c'est que l'ami d'une de mes sœurs venait de faire fortune en vendant sa société. Il venait de gagner beaucoup d'argent. Et je lui dis, mais maintenant tu dois être heureux, maintenant que tu as gagné tout cet argent. Et il m'a répondu non. Et je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça me paraissait bizarre. Et il m'a dit, mais parce que je viens de divorcer, j'ai une petite fille de 2 ans, je ne la vois pas très souvent et elle me manque. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des valeurs plus importantes que la réussite financière pour être heureux. C'est la qualité de la relation qu'on a avec les autres. En fait, ce qui rend vraiment heureux, c'est l'amour qu'on partage en famille, c'est la qualité d'une relation, c'est la chaleur d'une amitié profonde, c'est la joie d'avoir aidé quelqu'un en difficulté qui rend heureux bien plus qu'un compte en banque bien fourni. Alors, ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Hein. Évidemment, l'argent est essentiel.
C'est nécessaire, mais pas suffisant.
Mais c'est pas le... Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un problème de conception à la pyramide de Maslow. Parce qu'en fait, pour moi, la pyramide de Maslow, elle est comme ça. Toi, si la sécurité est comme ça, en fait, les relations devraient être, le bloc devrait être plus grand. Et puis, 2 ans plus tard, j'ai encore réfléchi un petit peu. Et là, il y a un autre événement. C'était en 91, la crise du Golfe, où tous les gens arrêtaient de prendre l'avion pendant quelques mois. Je sais pas, enfin, vous êtes trop jeunes pour le savoir, mais il y a eu la peur des attentats dans les aéroports. En fait, les gens ont tous reporté leur voyage pendant plusieurs mois. Et donc, il n'y avait plus de passagers. J'ai eu une crise énorme dans le transport aérien. Je n'ai pas pu traverser cette crise. Et donc, j'ai dû déposer le bilan en janvier 92.
Il y avait combien d'employés dans la boîte?
On était une cinquantaine.
Ah oui, donc c'était un beau poste déjà. C'est une belle responsabilité. Un peu dur à gérer de devoir licencier 50
personnes. Très difficile, ouais. Ça, c'était très, très dur à faire. Et en même temps, et c'est là où peut-être je suis passé d'un emploi, d'un poste de PDG sur Bouquet à rien du tout.
Un joueur.
Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une relation encore plus importante que la relation qu'on a avec les autres pour être heureux, c'est la relation qu'on entretient avec soi-même. Et donc, en fait, le troisième bloc, la relation à soi, devrait encore être plus important. Et ce qui s'est passé...
Oui, parce que tu manquais pas d'argent, puisque tu avais des sous de côté.
Un petit peu de sous de côté et tout ça, mais c'était ouais.
Donc c'est vraiment...
Et donc, ce qui s'est passé, c'est par rapport à... En fait, je me suis rendu compte, cette pyramide, elle peut tenir comme ça, mais elle ne tient qu'à la condition où la réussite financière est garantie. Parce qu'en fait, quand j'ai perdu cet emploi, en fait, le socle est parti et c'est toute ma pyramide qui s'est écroulée. Parce qu'en fait, je perdais bien plus qu'un emploi, parce que la moitié de mes relations provenait de mon environnement professionnel. Et donc, comme je pouvais déjà rayer d'un coup la moitié de mon carnet d'adresses, et l'autre moitié, je n'avais plus contacté parce que j'étais tout occupé à grandir ma parcelle. En fait, ils avaient changé de numéro. Et moi, en fait, je m'étais aussi tellement identifié à mon poste de PDG que j'en étais venu associer ma valeur personnelle proportionnelle à évaluer en fait ma valeur personnelle proportionnelle à mon salaire. Et là, tout d'un coup, comme je gagnais plus rien, en fait, à mes yeux, je ne valais plus rien. Et même, je me sentirais que j'étais plus rien, en fait. Et donc, c'est là où, en fait, quand t'as tes 3 blocs par terre, c'est pas très sympa.
Dur.
C'est un peu dur.
Et ça arrive à de plus en
et
plus
ça arrive à plus en plus de gens. Et le truc, c'est que, et donc, au début, ben, j'ai essayé de reconstruire à l'identique, comme on m'avait toujours appris. Tu vois, j'ai essayé vite de retrouver une parcelle, de retrouver un emploi, n'importe lequel et tout ça. Mais avec mon profil était un peu atypique. Tu vois, les gens disaient, mais pourquoi tu veux être directeur commercial quand t'es directeur général? Si tu veux être directeur général, mais t'as pas d'expérience dans le secteur. Enfin, j'étais plus dans les cases déjà. Et donc, c'était assez bizarre. Et puis c'est là où j'ai commencé à réfléchir un petit peu et tout ça. Et puis je me suis dit, ben en fait, plutôt que de reconstruire ma pyramide à l'identique, je pourrais en fait faire autrement et je pourrais la reconstruire à l'endroit. En commençant par le socle de la relation à soi.
Estime de soi.
Voilà. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Tu vois, plutôt que d'essayer d'aller chercher qu'est-ce que les autres pourraient m'apporter, c'est qu'est-ce que moi je pourrais apporter aux autres?
Quelle est ma valeur ajoutée? Mais t'as des outils pour ça à mettre en place?
Et là, il y a des trucs, notamment toute la gestion de notre petite voix intérieure, qui est super importante, et puis il y a la visualisation. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Et donc, je suis rentré dans tout ça, et progressivement, justement, ça m'a permis d'ouvrir d'autres pistes, de voir des choses que je ne voyais pas avant. Tu vois, il y a tout le système de croyances qui est important, de travailler, tout ça, tous ces aspects-là qui sont super importants.
Ça t'a pris combien de temps, ça, de regagner?
Et ça m'a pris... ça s'est fait. Mais après, ça s'est fait petit à petit, mais en un an, quoi, on va dire. Donc, de reconstruire, tu vois. Et une fois que là, ce socle est plus solide, tu vois d'autres opportunités, tu dépends moins du regard des autres. Parce que très souvent, en fait, on est handicapé par rapport au... Mais qu'est-ce que les autres vont penser? Il faut que je reste... dans ce qu'on attend de moi. Et donc c'est très très pénalisant et très handicapant. Et donc si tu te libères de ça, ben tu vas vers des choses vers lesquelles ton intuition te guide. Donc commencer à faire confiance plus à ta boussole intérieure plutôt qu'au regard extérieur des autres. Donc là, il y a plein de trucs qu'on peut faire là-dessus. Et puis une fois que tu as ça, ça qui est incroyable, c'est que les relations évidemment sont complètement différentes. Parce que, on le sait tous, mais il faut que tu sois bien avec. Si tu peux pas être bien avec les. Enfin, il faut être bien avec soi-même pour être bien avec les autres.
C'est ce qu'on dit en secourisme, c'est qu'il faut se sauver soi-même d'abord.
Avant de pouvoir être capable de sauver les autres.
Si le secouriste se fait écraser parce qu'il fait ça n'importe comment, tout le monde meurt.
Tout le monde meurt, il n'y a plus personne. Et en avion, tu vois, on le dit aussi, l'hôtesse de l'air, enfin, le PNC ou le SIWA, il dit en cas de dépressurisation de l'appareil, des masques d'oxygène tomberont. Mettez votre masque et si jamais vous êtes accompagné, mettez d'abord votre masque et puis mettez celui de votre enfant. C'est exactement ça, tu vois, il faut être bien. Et puis aussi, en fait, tu traites les autres la manière dont tu te traites toi-même. En fait, si tu es toujours critique envers toi, si tu es toujours en train de dire que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas ci, que tu n'es pas là, en fait, tu vas toujours critiquer les autres aussi. Et donc, pour améliorer ta relation avec les autres, le truc, c'est d'améliorer ta relation à toi. Et donc, c'est comme ça que c'est dans ce sens-là que ça marche. Et puis là aussi, il y a plein de trucs à faire. Et puis après, une fois que tu es plus cohérent là-dessus, ben, tu peux développer des projets, tu avances, etc. Les gens ont envie d'être avec toi. Ils te suivent, ils te soutiennent, on est en collaboration. Les relations sont beaucoup plus saines. Et puis alors, la sécurité, l'argent, etc., elle devient une conséquence, mais n'est plus un but. Et je pense qu'on est vraiment dans une société aujourd'hui qui est en train d'inverser ça. Et parce que, comme tu le dis aujourd'hui, en fait, les pyramides de Maslow, pour le moment, ben, il y en a de moins en moins. Elles s'écroulent les unes après les autres parce que depuis 1973 et le premier choc pétrolier, en fait, le barrage, il y a des brèches partout dans ce barrage.
Qu'est-ce que tu penses dans la loi Pacte, et je crois que c'est ça, ils ont introduit la possibilité de créer des entreprises à mission. Je ne sais pas si ça te parle. En disant, à la base d'une entreprise, ça se définit comme une entité qui veut faire du profit, qui doit faire du profit, sinon elle meurt. Donc, voilà. Et dans la loi Pacte, ils ont dit, on peut faire des entreprises à mission, dont Danone a suivi le pas, en disant, vous pouvez mettre une petite tagline, une petite phrase, en disant, notre but, c'est d'apporter une nourriture équilibrée et saine au plus grand nombre. Voilà. Et là, on a deux objectifs. On a le profit, qui est un moyen pour servir la mission. Ouais.
Le profit est une conséquence de la mission. J'espère. Le truc, c'est évidemment toute la difficulté de là-dedans, c'est quelle est la sincérité qu'on a par rapport à ça. Toi, les mission statements de toutes les boîtes, ça fait 20 ans qu'on fait les mission statements et les values et tout. Mais si la direction se dit, OK, on fait amener un outil parce qu'on nous a dit qu'il faut le faire, mais qu'on n'a rien à foutre sur le fond et qu'on veut garder le contrôle, le pouvoir, et ce qui est le plus important, c'est le profit. Ça marche pas, mais c'est vrai qu'il y a une mouvance des entreprises libérées aujourd'hui, etc. Enfin, donc, moi, je crois que s'il y a une vraie sincérité là-dedans, c'est génial. Et toute la clé est là, c'est effectivement de prendre le risque d'aller vers cette sincérité.
Parce qu'en réalité, ce que tu dis, c'est que ces entreprises à mission, elles découlent d'une réorganisation de la pyramide de Maslow.
Je pense, oui. On se dit parce que tu repars de toi, c'est ça. Quelle est mon organisation, etc. Là, les relations vont être bien, et l'argent reste important, la sécurité reste importante, mais c'est une conséquence.
Le profit ne peut pas être un but en soi.
Moi, je pense que si le profit est un but en soi, c'est la porte ouverte à toutes les dérives qu'on a pu avoir. Justement, tu vas vendre des organes, tu vends de la drogue. Enfin, il y a pas de barrière. Si le profit est le but, fais tout ce que tu peux. Il y a plus de barrière. Les seules barrières que tu vas te mettre par rapport aux choses, c'est l'éthique. Et on en reparle de plus en plus de l'éthique et tout. Mais s'il y a pas ça, moi, je pense que c'est ça qui fait vraiment tuer le business. Il y avait un exemple que j'aime beaucoup, c'était une grosse enseigne qui était entrée en bourse. Et donc, évidemment, la rentabilité devenait le maître mot dans les magasins, etc. Et puis, il y avait un pâtissier dans une des grandes surfaces. Il adorait son métier, c'était un mec passionné et tout ça. Il adorait faire cette tarte à la fraise. Et puis, il y a des financiers qui arrivent, qui font des tableaux Excel sur les rentabilités, le nombre de fraises qu'on met sur une tarte, etc. Et il s'est rendu compte que ce pâtissier-là mettait plus de tartes aux fraises que dans d'autres magasins. Donc, la marge était moins grande. Et donc, on a obligé à ce pâtissier à mettre moins de fraises pour la rentabilité. Sauf qu'évidemment, ça a complètement démotivé le pâtissier. Il a fait moins de ventes. Alors, les marges étaient peut-être plus importantes, mais le chiffre d'affaires était beaucoup moins. Donc, en fait, au global, il gagnait moins d'argent. Mais comme le tableau ne parlait que de la rentabilité, on voyait pas les autres chiffres. Et donc, toi, et ça pervertit complètement le système. Si tu mets la rentabilité en objectif ultime, tu perds toute l'âme de la boîte pour moi.
Alors, ce que tu dis, c'est que la mission sert à la rentabilité au final. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus profond que ça? C'est-à-dire que si on ne cherche pas à être utile aux autres, si on ne cherche pas à servir une mission, on fait de la merde.
Ça ne sert à rien, c'est ça.
Voilà. Il n'est pas possible de développer un projet sur le long terme si on n'a pas une conviction.
Je crois. Et c'est là, et c'est pas une question de quels sont les métiers, etc. Je pense que tous les métiers ont du sens. Et la crise de la COVID aujourd'hui a révélé ça, justement. Quand tu vois justement des infirmières qui ont été applaudies, quand tu vois des éboueurs justement qui étaient dans les métiers indispensables par rapport à des métiers soi-disant ou de comédiens ou on pouvait pas jouer
de cadre sup
qui et donc c'est là de retrouver effectivement le sens le vrai sens de certains métiers qui sont indispensables et je trouve que il y a un travail énorme de la société justement à revaloriser ou à donner une image justement à tous les métiers. À partir du moment où un métier, pour moi, c'est quelque chose qui est capable de rendre service aux autres, et il y a mille manières de le faire.
Et ça se justifie par le fait que humainement,
tu es bien, voilà, tu es centré sur
racine,
ce que tu fais.
La racine de ce constat, c'est la stabilité mentale, en fait.
Ouais. et c'est l'envie, c'est ta mission, c'est ton socle de ta relation à toi qui est planté dans le sol, pour moi. Et c'est la base.
Et du coup, alors, le kayak, le barrage, comment ça se passe? C'est-à-dire que là, on a construit un barrage...
On a construit un beau barrage pendant les 30 Glorieuses.
On a mis la rentabilité et le profit.
Voilà, petit à petit, le but, c'était d'agrandir sa parcelle. Le but d'une vie, en fait, c'était d'aménager de mieux en mieux sa barque et d'agrandir sa parcelle.
Sécuriser.
Et le problème, c'est qu'à un moment donné... Il y a déjà des gens qui ont commencé à se dire, en 68, ça a commencé déjà en disant, mais c'est chouette la parcelle, mais pour finir, je me tourne en rond dans mon aquarium, comme un poisson dans mon aquarium. Où est le but? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. Tu vois, il y avait le témoignage d'un ouvrier métallurgiste en 67 qui témoignait de ça. Il disait, depuis 36, je me bats pour des revendications de salaire. Avant moi, mon père s'est battu pour des revendications de salaire. Aujourd'hui, j'ai la télé, une Volkswagen et un frigo. Et au total, j'ai jamais cessé d'avoir une vie de con. Et je trouvais que c'était un résumé, c'est un beau témoignage de dire, si ce n'est que le profit, à un moment donné, tu n'es pas en connexion avec ton âme, avec ce que tu es, etc. Tu t'appauvris, il doit y avoir quelque chose qui meurt en toi. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus, justement, de gens qui ne peuvent plus vivre de cette manière-là, qui ont besoin de retrouver ce sens-là. Et par rapport au barrage, mais l'idée c'est que en 73, premier choc pétrolier, c'est la première brèche dans le barrage. Et depuis, maintenant, les crises successives, et tu en parles suffisamment bien pour ta communauté, c'est ce que tu penses du barrage,
hein, oui.
Et du lac et tout ça. Et donc, le niveau du lac est en train de descendre. Et en fait, on est de plus en plus à se battre sur une surface qui se rétrécit. Avant, les 30 Glorieuses, c'était chouette parce qu'on était certain d'agrandir sa parcelle. Ou si pas toi, au moins tes enfants. Et donc, il y a une vision, une perspective d'avenir. Tu vois, il y a un objectif quand même qui est ce qu'il est, mais qui est réel. Mais aujourd'hui, en fait, on est de plus en plus sur une surface qui se rétrécit. Et donc, la seule manière d'aller agrandir son espace, c'est d'aller piquer de l'espace chez le voisin. Et donc, c'est comme ça qu'on est dans une société de plus en plus compétitive, individualiste. C'est du chacun pour soi, on est tous pour sa gueule. Et il y a de moins en moins de place, et les gilets jaunes. En fait, c'est un peu comme à marée basse. Tu as des millions de barques qui sont déjà dans la vase. Et les gens voient la surface de l'eau qui diminue, ils se rapprochent du fond, quoi. Et donc, ça crée énormément d'insécurité, énormément de tension et tout ça. Et donc, la vie sur le lac devient de plus en plus difficile, à mon sens. Mais c'est pas pour ça que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et pour moi, la solution aujourd'hui, c'est de prendre le risque de repartir dans la rivière. Parce qu'en bas du barrage, la rivière continue toujours de couler. Et donc là, tu peux retrouver une certaine énergie, tu retrouves une autre forme de solidarité. Qui est d'aider quelqu'un en difficulté, ben c'est comme tu fais, de l'apprendre à gérer son argent, de l'apprendre à avoir un métier, d'être créatif, de faire confiance, de se faire confiance et tout, plutôt que d'imaginer de garder ta parcelle, la protéger du mieux que tu peux.
Ça m'a beaucoup intéressé cette vision lac kayak parce qu'en fait en finance et même en systémie, on voit qu'on ne sait pas annuler un risque. Mm-hmm. On sait le transférer. Et il y avait l'exemple, par exemple, entre les forêts, je crois, en Californie et les forêts au Mexique. Au Mexique, ils s'embêtent pas, ils éteignent les grands feux, et puis tous les petits feux, ils font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et en Californie, ils éteignent tous les petits feux. Et on s'est rendu compte qu'en Californie, quand il y avait des grands incendies, ils étaient ravageurs et inarrêtables. Parce que tous les petits feux, on les a arrêtés. Donc on s'est dit, on annule le risque, et en réalité, on l'a transféré sur les grosses catastrophes. Et l'image du barrage, c'est marrant, ça m'a fait mais en fait, une rivière, c'est très risqué. À chaque instant, parce que caillou, parce que machin, parce qu'il y en a un autre, parce que... Et le barrage, en fait, on transfère le risque en édifiant un très grand barrage, mais plus il est grand, plus il est fragile. Ouais. Et le jour où il pète, par contre, il pète pour fort, de vrai, quoi. C'est ouais, ça. Et c'est pour ça, cette analogie du transfert de risque, je me suis dit, mais soit il parle de ça, soit je me fais des films.
Ouais. C'est tout à fait ça.
Faudrait que je lui demande.
Parce que tu vois, le truc pour moi, c'est que c'était complètement utopique d'imaginer que le niveau du lac ne cesserait jamais de monter. En fait, on était dans une idée d'une croissance infinie où chacun pourrait agrandir éternellement sa parcelle. Mais de toute façon, le niveau du lac ne pourrait jamais excéder à la hauteur du mur. Et puis à un moment donné, le poids de l'eau est tellement fort que ton barrage te fragilise, quoi. Donc, imaginer que tu pourrais vivre sur un lac complètement étendu à l'abri de tout. C'est complètement utopique. Et c'est effectivement, mais on est dans ces, enfin, avec la crise du Covid et tout, encore aujourd'hui, on est dans cette idée on a arrêté la mort, quoi. Enfin, c'était vraiment l'idée, c'est fondamental, c'est ça, pour les 30 glorieuses. Maintenant, on peut faire n'importe quoi, on peut fumer, on peut boire, on va se faire opérer dans tous les sens. Enfin, c'est l'homme bionique, c'est toute cette illusion-là de pouvoir survivre à la mort, pour moi, qui est.
L'homo Deus.
Ouais. Et donc retrouver la rivière, c'est accepter l'incertitude de la vie et ce qui fait notre humanité.
Et si on file la métaphore, on pourrait dire aussi que globalement, ce qui nous attend, c'est la décroissance, parce que voire.
Ouais.
Et en même temps, on pourrait se dire ouais, mais décroissance, je sais pas, parce que entre faire de la barque et faire du kayak, c'est pas le même monde.
C'est ça.
Est-ce qu'on est plus malheureux dans l'un ou dans l'autre?
Moi, c'est pour ça que j'aime pas la décroissance. C'est, si tu raisonnes en termes de décroissance, tu raisonnes effectivement en termes de lac. Mais pour moi, la rivière, c'est pas la décroissance. En fait, c'est retrouver le sentiment de satiété. C'est retrouver ton humanité. Là, parce que t'as pas à grandir ta parcelle. Tu restes léger sur ton kayak. Donc, t'es pas dans l'idée de la décroissance.
Le sentiment de satiété?
Et le sentiment de satiété, c'est justement de, tu vois, quand un lion a faim, il tue une gazelle et puis s'arrête de bouffer quand il est rassasié. Il va pas tuer 10 gazelles à la fois pour impressionner ses copains lions. Tu vois, ça n'a aucun
sens.
Faire du stock du surplus, du truc, agrandir encore et encore et devenir obèse, hein, tellement bouffer tellement des gazelles parce qu'elles sont là. Mais le kayak, c'est ça, c'est rester léger. Quand t'as pas à prouver que t'en as une plus grosse que l'autre, comme quand t'es plus dans la logique du barrage, mais tu retrouves ce sentiment naturel justement de satiété. Et donc c'est là où tu n'es plus dans une idée de croissance ou décroissance, etc., mais tu retrouves un vrai bonheur à faire des choses plus simples. Mais pas parce qu'on te le prive, mais parce que toi-même, tu as ce plaisir.
Alors c'est quoi? C'est parce que c'est notre projet?
Non. Mais c'est... Non, parce que justement... Et c'est là, avant, en fait, la société se battait entre gauche et droite, dans la logique du barrage, sur le lac, où il y en a qui disaient, il faut prendre chez les riches pour donner aux pauvres, l'espace où il y en a encore, il faut le donner à ceux qui n'en ont pas, au nom de la solidarité, alors que la droite disait, au nom de la liberté, chacun peut agrandir sa parcelle et tant pis pour les plus petits qui crèvent. Aucun des deux n'est chouette. Et donc les gens disaient, on va, malgré les brèches, on va la croissance pour nous monter le niveau du lac, pour que de nouveau chacun puisse étendre sa parcelle comme dans les années 60, quoi, sans plus empiéter sur celle des autres. Et donc si on reste, même la croissance verte, tu vois, cette idée de croissance, c'est rester encore dans l'idée qu'on va protéger, que le barrage va rester actif et qu'on va pouvoir vivre sur le lac. Moi, je crois que maintenant, le barrage ne va pas tenir. Mais il faut retrouver le chemin de la rivière. Et donc, c'est une autre forme, en fait. Et de nouveau, cette rivière, c'est repartir de soi, de son projet. Enfin, quand tu rends service à d'autres, tu recrées une nouvelle économie. Enfin, tu peux recréer de l'argent aussi parce que l'argent est créé par les idées, par l'innovation qu'on apporte.
Et est-ce que la critique de ça qu'on pourrait entendre, c'est au final, est-ce que c'est pas chacun pour soi, Dieu pour tous? En disant chacun dans son kayak et puis Dieu reconnaîtra les siens.
Ouais.
C'est quoi la différence entre ton image et
Mais parce
ça,
que
tu vois, histoire de
pour moi,
dire
la
que.
vraie solidarité, c'est justement, c'est d'aider les gens on est ensemble dans cette rivière déjà. Donc, si tu veux qu'elle soit navigable, il faut s'agrandir soi-même pour qu'elle soit praticable. Tu peux aider des gens en difficulté parce que tu ne t'appauvris pas quand tu aides quelqu'un. Comme la connaissance, tu vois, quand on partage de la connaissance, on garde notre connaissance, mais on en apporte à d'autres. Donc, c'est pas la logique du barrage qui est si je donne quelque chose, je m'appauvris. En fait, dans la rivière, c'est quand tu donnes quelque chose, tu t'enrichis aussi. On s'enrichit du partage d'expérience. Il peut y avoir des abus. De nouveau, la rivière, c'est pas un monde de bisounours, c'est tout. Il peut y avoir des GAFA qui veulent se prendre un gros bras de rivière rien que pour eux et faire leur barrage, leur popote entre eux. Donc là, c'est là où aussi, effectivement, il faut une vraie solidarité. Il faut organiser la rivière pour que ce ne soit pas ça. Toi, éviter les abus qui pourraient y avoir.
À titre personnel, si je te dis, ce sera plus facile de trouver des clients qu'un patron, est-ce que ça te parle?
Ça me parle tout à fait. C'est dans cette idée-là de dire, je cherche pas quelqu'un qui va me donner un salaire et une sécurité. En fait, je dis, qu'est-ce que moi je peux apporter à des gens pour leur rendre service d'une manière ou d'une autre, en fabriquant quelque chose, en créant, en partageant une idée, en participant à un projet. Et c'est pas spécialement de l'entrepreneuriat, hein. Enfin, c'est ça aussi, mais ça peut être, tu vois, moi j'ai adoré, c'est le témoignage d'une jeune prof qui m'a envoyé un message l'autre jour en me disant, j'ai adoré votre bouquin, merci beaucoup et tout ça, parce que ça va me permettre, moi depuis très longtemps j'avais envie de faire une formation pour aider les enfants handicapés à intégrer l'école, et je l'avais jamais osé, je l'avais jamais fait, etc. Et donc grâce à cette image du kayak, je me lance et je fais cette formation-là. Et toi, donc elle va trouver la manière qui lui convient de rendre service aux autres. Et elle le trouve maintenant à travers l'éducation nationale. Ça peut peut-être après, ça va évoluer peut-être vers autre chose et tout ça, quoi. Tu vois, mais c'est trouver ça, c'est trouver ce sens profond en nous.
Comment on peut dire à des gens qui ont une parcelle sympa aujourd'hui qu'ils ont intérêt à se remettre en risque
Ouais.
avant de courir le risque?
C'est pas fait. Enfin, et c'est là où il
Comment
y
c'est
a pas.
entendable?
Peut-être pas. Peut-être que ça l'est pas pour eux. Peut-être qu'il y en a qui ont aussi des parcelles suffisamment grandes et profondes qui se disent, moi, dans 20 ans, je sais que je peux encore tenir comme ça pendant 20 ans, et sûrement qu'ils pourront tenir encore comme ça. Enfin, peut-être. Le truc, c'est que je sais pas quand le barrage va casser. Personne ne le sait. Peut-être, est-ce qu'il va casser fort d'un coup? Est-ce qu'il va continuer à se déliter gentiment et où ça va descendre petit à petit, tu vois?
C'est le barrage de
C'est
l'Union
compliqué.
soviétique, il a tenu 70 ans. Hein.
Oui, mais il s'est écrasé en 2 ans après. Et donc c'est là la question, et ça j'ai pas la réponse. Et c'est à chacun, tu prends le risque ou non. Toi, tu peux prendre le risque de rester encore dans ta parcelle. Et donc l'idée, c'est pas d'envoyer tout le monde, c'est pas de foutre une bombe dans le barrage et d'envoyer tout le monde dans la rivière, tant pis pour ta gueule. Hein. Mais c'est de dire aujourd'hui aux gens qui n'ont plus de place dans le barrage, ou qui ne se sentent plus à l'aise dans le barrage. Et de dire, ben peut-être que la solution, c'est prenez le risque de reprendre votre kayak. Mais il faut avoir une. Mais je suis certain qu'effectivement, il y en a qui sont pas prêts à faire ça. Et je le comprends, parce que l'eau est froide au début, tu te prends des tasses, tu te cognes contre les rochers. Enfin, donc, tu
c'est
dégustes
sport.
un petit peu, quoi. C'est pas juste un long fleuve tranquille.
C'est un sport, le kayak.
C'est un
quoi.
sport,
Ouais.
hein, ouais. Mais en même temps, on voit, c'est ça qui est marrant, c'est je trouve que tu vois vraiment que tu as des gens. Enfin, regarde les sports en plein air comme ils sont en train de se développer justement maintenant aujourd'hui. Pendant les années 60, c'était tous c'est le loisir. En fait, on était heureux quand on consomme et quand on se repose. Et aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus, on est heureux aussi quand on fait une activité sportive un peu risquée, justement du VTT, du truc de la voile, du kite. Enfin, tous ces trucs-là sont des sports. Toi, tu fais des vacances à la ferme aussi maintenant. Enfin, donc il y a une toute autre forme de tourisme où on a envie de faire des choses. Et je crois que, toi, plutôt que de dire que le bonheur c'est dans la consommation, alors oui, ça peut le rester encore, mais le vrai bonheur aussi c'est dans le fait de faire et de travailler. Pendant les Trente Glorieuses, avec Taylor, avec la parcellisation du travail et tout ça, c'est vrai que c'était pas spécialement fun de travailler. Aujourd'hui, enfin, je pense pas que tu travailles quand on est ici. Est-ce qu'on travaille? On travaille pas, toi. Cette notion-là n'existe plus aujourd'hui.
Pour avoir été salarié, je m'amuse beaucoup plus maintenant.
C'est ça.
Ouais. Et d'ailleurs, peut-être que toi aussi.
Oui.
C'est ce que tu disais quand t'as quitté, enfin quand t'as quitté, quand t'as perdu ton poste.
Et même RXL, j'étais salarié, mais c'était ma boîte, j'étais le premier, c'est moi qui ai tout créé, tout ça. Donc, je me suis jamais senti comme salarié, j'ai jamais eu de patron au-dessus de moi et tout. Et donc, c'est cette liberté-là, je trouve, est géniale, mais c'est une responsabilité aussi parce que parfois, justement, t'as pas toujours la sécurité. Parfois, tu te retrouves devant un rapide, tu te dis, oula, comment là, c'est boulette, c'est chaud boulette, il faut que je fasse gaffe. Mais voilà, mais ça, en même temps, c'est ça la vie, quoi.
Donc, en fait, par la positive, quelle est la prime? Quel est vraiment l'intérêt de se dire, bah, au final, il y a un épanouissement à la clé à passer de l'autre côté du barrage. Ouais.
Et je pense aussi qu'il y a une réussite financière, quand même. Parce que, enfin, le truc, c'est la réussite financière, tu peux l'avoir. Si tu le mets en disant, moi, je veux réussir pour prouver aux autres que je suis capable, il y a moyen. Tu vois, il y a des gens qui ont un moteur incroyable par rapport à ça et tout ça. Mais je pense aussi, tu vois, quand un restaurateur est passionné, tu as envie d'aller chez un restaurateur qui est passionné par son métier plutôt que chez un restaurateur qui a envie de faire du blé. Tu vois, mais c'est ça, en fait, l'état d'esprit, en fait, qui change. Et un restaurateur qui est passionné, aujourd'hui, à mon avis, aura plus de chances de vraiment bien réussir qu'un restaurateur où tu ressens quand t'arrives qui veut prendre ton blé, quoi.
Qu'est-ce que tu penses du revenu universel, le principe, hein, Paul?
Mais sur le principe, je ça me paraît être une bonne idée sur le principe. Si ça peut simplifier justement toutes les mesures qu'il y a aujourd'hui de conditions de revenus, de ci, de là, en fait, enfin. C'est pour le moment, il y a pour beaucoup de gens, leur travail, c'est d'aller chercher leurs allocations. Si ça peut libérer du temps et de dire, OK, vous avez ça, quoi qu'il arrive, faites ce que vous voulez, vous glandez toute la journée, c'est pas grave, etc. Pourquoi pas? Et puis après, on gagne de l'argent en travaillant. Le risque de ça, c'est que ça crée de l'inflation et qu'en fait, il n'y a pas d'argent disponible parce que les loyers vont augmenter du revenu universel qui est disponible, et donc ça risque de s'annuler. Donc il y a des aspects qui sont difficiles à mon avis à mettre en place, mais sur le principe, je serais pas contre d'une répartition. S'il y a suffisamment de richesse, qu'on répartisse à chacun, on donne un kayak à chacun, globalement, tu vois, et puis après chacun pagaille comme il veut, et il y en a qui pourront aller suivre les rapides comme ça, et d'autres qui suivent des petites rivières en fonction de l'esprit de chacun.
Est-ce que la récompense peut précéder le travail? Parce que c'est un peu ça, la question du revenu universel.
Moi, tout dépend comment il est fait. Toi, si c'est moi, je pense que le revenu universel, s'il est accompagné du travail, du travail sur soi, peut être une bonne chose. Parce qu'une fois que tu as cette sécurité-là, tu peux prendre le risque peut-être justement de faire des choses que tu ne ferais pas et tout. Si tu n'as pas, si tu n'es pas construit ton socle relation à soi, n'est pas suffisamment solide, tu ne vas effectivement le prendre que pour de l'argent comme ça, en essayant, ta base est faite et tu essaies d'être heureux, tu ne seras jamais heureux avec ça. Donc ça ne peut pas marcher tout seul, mais dans le sens où c'est jumelé avec un vrai travail depuis l'école, tu vois, de construction de soi, d'éducation, ça prendra 5 générations, hein, je suis complètement utopique quand je dis ça, mais... Si les gens pouvaient avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, si des petits-enfants pouvaient justement les aider à grandir dans leur estime d'eux-mêmes, etc., et pas d'être complètement plus ou moins détruits quand ils sortent de leur enfance par rapport à toutes les horreurs qu'ils ont pu entendre, qu'ils n'étaient pas assez ci, qu'ils n'étaient pas à la hauteur, qu'ils étaient paresseux, qu'ils étaient ci, tout ce qu'on a pu entendre. Et c'est avec ça, on reste en fait toute notre vie avec ça, avec tout ce qu'on a pu entendre dans ces moments-là, et c'est dommage parce que ça crée beaucoup de dégâts pour pas grand-chose.
Tu penses à la structure de l'école quand tu dis ça?
Je pense aussi à la structure de l'école, je pense à la structure de la famille, je pense à tout c'est un monde à changer. Alors il y a de plus en plus, on le voit maintenant, alors je sais pas jusqu'où, le temps que ça prendra et tout, tu vois, mais les écoles alternatives amènent quand même un autre regard, l'éducation bienveillante, on en parle quand même de plus en plus. Alors beaucoup de gens voient ça encore comme l'enfant roi, mais ça, c'est tout par rapport à notre éducation, par rapport à ce qu'on a reçu, parce qu'on est très souvent, on se dit, comme je suis quand même bien comme je suis, donc mon éducation n'a pas dû être si mauvaise. Et c'est comme ça qu'on reproduit les erreurs qu'on a pu dont on a pu être victime quand on était enfant.
Est-ce que, c'est pareil, j'essaye de décliner le sujet sur la démocratie directe. Mmh. Avoir un système, justement, qui responsabilise, voter pour des lois plutôt que pour des hommes. Mmh. Est-ce que c'est de ça qu'on parle ? Avoir une conscience plus large et plus responsable.
Oui. Oui, c'est une vraie implication. En fait, que la rivière n'appartient à personne, mais on en est tous responsables. Donc déjà, d'avoir ce sentiment-là que pour la planète aujourd'hui, c'est si tu ramasses la canette de la canette qui est par terre et que tu la mets dans la poubelle, si tu le fais pour montrer que, etc., ça ne marchera jamais. En fait, il faut que tu le fasses toi pour toi parce que tu as envie de le faire indépendamment de ce que les autres vont faire. Et si on est suffisamment nombreux à être dans cette même démarche-là, c'est là que les vrais changements peuvent opérer. Toi, quand tu vois le problème du carbone dans le monde entier, aujourd'hui, la taxe sur le carbone et tout, le problème qu'il y a, c'est que personne ne va faire tout seul cette démarche-là parce que ce sont les autres qui vont en profiter pour le moment. Mais en même temps, il faut sortir de cette logique-là. Il dit, moi, j'ai envie de le faire indépendamment de ce que les autres vont faire. J'ai envie de le faire pour moi parce que je pense que c'est bien pour mon pays. Et puis après, on verra, mais je m'en fous. Moi, ce qui est important, c'est de le faire pour moi. Parce que j'ai mon socle de ma relation à moi. Moi, j'ai envie d'être une personne. J'ai pas envie d'être une personne qui pollue. Tu vois, mais c'est pas parce que je veux donner des leçons à qui que ce soit. C'est juste parce que c'est ce que je suis. Et si on est suffisamment nombreux à devenir ça, ben c'est là où peut-être effectivement les changements vont s'opérer.
Et individuellement, en dépit, parce que bon, les solutions collectives, c'est toujours un problème, parce que le collectif, on ne sait pas à qui s'adresser. Mm-hmm. On a intérêt justement à se transformer soi-même, parce ouais. que déjà, individuellement, on a des
voilà.
solutions. Quoi.
C'est ça.
On peut agir.
Ouais.
On peut faire.
Ouais. Tu vois, il y a une histoire que j'aime bien, qui est un peu dans ce sens-là. C'est au lendemain d'une énorme tempête, il y a un vieux pêcheur qui se promenait sur une plage où étaient échouées des dizaines de milliers d'étoiles de mer. Et en se promenant, il se baladait, et puis de temps en temps, il se baissait pour en ramasser une, et il la rejetait dans l'océan. Et puis un jeune enfant qui voit la scène, qui arrive vers lui, le vieux pêcheur, il dit « Mais pourquoi tu fais ça? Tu pourras jamais rejeter toutes les étoiles de mer dans l'océan, ce que tu fais ne fera aucune différence. » Et il y a le pêcheur qui monte l'étoile de mer et lui dit « Pour cette étoile de mer-là, ça fera toute la différence. » Et tu vois, c'est ça en fait, cette idée que c'est, si on est suffisamment nombreux à le faire, ça peut changer, mais je le fais pas pour les autres. Et puis, ben, le petit qu'on fait, ça peut faire la différence. Et donc, c'est là où il faut être assez optimiste, à mon avis aussi, et juste être dans l'idée d'avoir changé. Toi, ben, on fait notre petit truc, quoi. Et puis, ben, si on est nombreux à faire notre petit truc, on verra ce que ça donne. Mais c'est juste le plaisir de faire, nous, mettre notre petite pierre à l'édifice.
Quelles sont les figures qui t'ont influencé quand tu étais jeune ? De quoi tu rêvais ? Qu'est-ce qui te faisait, qu'est-ce qui te prenait aux tripes, ado ?
Ado, il y avait. J'ai commencé un petit peu tard, justement, parce que j'étais vraiment. En fait, j'étais dans ma logique du barrage, tu vois, faire mes études, mais ça me faisait chier.
D'une
école de commerce, ouais. En finance, ça, mais je ressentais pas, j'avais pas de plaisir spécialement à étudier et tout ça. Donc, mais c'est vrai que j'ai commencé sur les premiers bouquins, c'était bouquins de prospective, le défi mondial de Jean-Jacques Schreiber. À l'époque, il y avait Promoté empêtré aussi. Enfin, il y a eu quelques bouquins comme ça qui m'ont un peu inspiré. Mais plus tard, une de mes figures vraiment pour moi, c'est Nelson Mandela, en fait.
Ah oui.
Ouais. Ça, je trouve que c'est. Enfin, c'est des gens comme ça qui changent le monde. Avec une force incroyable de résilience.
Qu'est-ce que t'en retiens de Nelson Mandela ?
J'en retiens, mais déjà qui nous dit le fait d'être malheureux ne sauvera personne. Donc travaille déjà à ton bonheur, fais ton socle de ta relation à toi et travaille là-dessus. Je retiens que justement la force de l'exemple, le fait qu'il est suffisant, le fait aussi d'être capable de ne pas haïr ces geôliers, en fait, de dire c'est pas qu'ils sont ils sont bons aussi, mais simplement ils n'ont pas encore compris l'évolution, le sens de l'histoire, mais donc rester dans l'amour de ces geôliers même quand ils passent 27 ans, les petites étapes aussi dont tu parlais en commençant, où les premiers trucs qu'il a fait, c'est d'obtenir des pantalons plutôt que des shorts, tu vois, pour retrouver la dignité du prisonnier, et donc commencer par des toutes petites victoires comme ça pour changer petit à petit la force des choses et tout ça. Enfin, donc, moi, je trouve, quand il explique aussi qu'il est prêt à mourir pour ses idées, et c'est que ça qui lui sauve la vie de le dire à son procès, quand il explique que si je dois mourir pour ça, tant pis, mais ça vaut la peine. Et donc, tu vois, c'est ce socle de cette relation qui est tellement ancré, je trouve, sa relation à lui qui est incroyable et qui peut changer le monde grâce à ça.
Et toi, comment tu as réussi à te refonder, en fait? Parce que tu sors d'école de commerce, tu rentres à ta compagnie aérienne. Mm-hmm. Et comment tu traverses, en fait, cette phase où la déconstruction?
Ouais.
C'est une phase où, de transition, en fait, où, par laquelle on est nombreux à être passés, ouais. Et par laquelle ouais. Beaucoup de gens vont passer. Mm-hmm. Mais ouais. Comment ça se vit, personnellement, en fait?
Il n'y a pas de solution. C'est compliqué. Moi, je ne peux témoigner que de la manière dont je l'ai fait. Hein. Et puis après, chacun, ça peut être inspirant peut-être pour certains. Moi, ça a été à travers la discussion déjà avec un thérapeute. Justement, par rapport à mon histoire familiale, mes parents et tout ça. Donc ça a déjà été assez sympa de mettre des mots sur tout ça. Et puis, en développement personnel, vraiment des stages, des trucs, justement, de comprendre l'importance des systèmes de croyances, décortiquer ça, commencer à visualiser, prendre la responsabilité de ce qui m'arrive, comprendre que je suis acteur de ma vie et pas simplement un spectateur, ou que je suis pas juste une branche morte qui est ballottée au gré des flots, mais que on a un pouvoir incroyable en fait qu'on en soi. Donc retrouver cette force en moi. Là-dessus, accepter l'incertitude, d'accepter de me prendre aussi des rochers dans la gueule encore tout le temps, hein, et me dire que c'est juste une trajectoire peut-être différente que vers laquelle la vie m'emmène, mais qu'elle est peut-être bien aussi, tu vois. Donc c'est en même temps être totalement déterminé, avoir tes objectifs, savoir où tu veux aller et tout, et en même temps accepter aussi d'être entraîné du jour au lendemain et de lâcher prise complètement vers dans une direction que tu n'avais pas choisie, quoi. C'est ce jeu-là qui est assez subtil à... qui est assez sympa à jouer dans la vie. C'est ça le jeu de la vie pour moi.
Et après, comment tu t'es réenclenché sur quelque chose parce que t'as...
Mais ça a été en travers une petite annonce que j'aurais jamais regardée. Enfin, si je n'avais pas fait ce travail-là déjà au départ, j'étais plutôt sur les annonces classiques, offre d'emploi, etc. Et puis il y a une petite annonce qui était développer votre réseau commercial de manière indépendante ou un truc comme ça. Et donc, en fait, c'est à travers cette petite annonce-là, j'ai vu les choses autrement, j'ai été voir, j'étais curieux, j'ai commencé ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon premier bouquin aussi.
Alors, qu'est-ce que c'est, ça?
C'était dans la vente directe.
Alors, qu'est-ce que c'est, la vente directe?
Et la vente directe, il y a différentes formes, mais c'est entre la franchise et la vente directe. En fait, d'un côté, tu achètes une société te propose des produits que tu achètes au prix de gros et que tu revends au prix de détail, ou que tu consommes toi-même au prix de détail. C'est une communauté d'acheteurs. En fait, tu achètes à la centrale d'achat et tu consommes les produits et tout ça, ou tu en revends autour de toi. Et la deuxième chose, c'est que tu peux parrainer les personnes à faire la même chose que toi. Et tu rémunères alors en fonction du chiffre d'affaires de l'équipe que tu construis. Et donc, je trouve le système très éthique et très équilibré quand il est bien fait, hein, s'il faut que ce soit.
Et tu vendais quoi?
Et c'était le système de filtration d'eau et d'air. Pour enlever le chlore et le charbon, enfin avec du charbon actif pour enlever les métaux dans l'eau de ville, et plutôt que d'amener toujours de l'eau en bouteille, tu peux avoir de l'eau très très pure qui sort de ton robinet. Enfin, c'est les filtres Brita, tu vois, maintenant, tu vois, t'avais plein de... Donc maintenant, c'était le début il y a 20 ans là-dessus. Et donc, j'ai trouvé les produits étaient sympas, mais surtout aussi la manière de travailler était justement le fait que moi j'avais beaucoup souffert de licencier 50 personnes, quoi. Même si c'était pour rien, une fois c'était la crise du Golfe, je pense pas que j'avais fait des erreurs de gestion et tout ça, enfin c'était vraiment et c'est quand même c'était assez traumatisant pour moi, et je m'étais dit s'il y a moyen de travailler autrement, tu vois, en étant en partenariat avec des gens plutôt que d'être dans cette relation d'employeur-employé et tout ça, ça pourrait peut-être être pas mal. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a ouvert vers tout le développement personnel et toutes ces notions dans lesquelles je me suis plongé, et puis John Gray, et puis après, plein d'autres trucs.
Parce que pendant que tu faisais de la vente directe, Et ben du coup, tu réfléchissais à côté sur différentes possibilités.
Mais la vente directe, toi, ça a été aussi justement accepter qu'on puisse me dire non, j'en ai fait pendant 3-4 ans. Et donc, c'était aussi accepter qu'on me dise non, proposer, me mettre en avant, prendre le risque d'aller vers les gens pour proposer quelque chose, etc. Enfin, donc, c'était retrouver mes clients, quoi, comme tu disais.
Parce que la vente directe, en fait, c'est du porte-à-porte et ensuite tu...
Non, justement, enfin, c'est ça où c'est mal construit. La vente directe peut être du... Mais ici, c'était pas... Non, il faut pas faire du porte-à-porte. C'est vraiment plutôt par réseau de connaissances. Enfin, c'est un groupement d'achat par parrainage comme... un client satisfait qui en parle à quelqu'un d'autre. Enfin, donc c'est plus dans cet esprit-là.
Tu as écrit un livre dessus déjà.
J'ai écrit un bouquin dessus.
Qui avait un bon succès.
Qui a été. Mais c'était marrant, oui. C'était un de mes premiers, une de mes premières manières de faire. Je me suis dit, tiens, il y avait beaucoup de littérature américaine là-dessus. Et les Européens manquaient un peu d'outils un peu plus réfléchis pour comprendre un peu la manière dont ça marchait. Et donc j'ai écrit ce bouquin. Et puis. Je savais pas très bien où le publier et tout. Puis les éditeurs, un bouquin sur la vente directe, ils s'en foutent. Je me dis, je vais faire ma maison d'édition. Et donc, parce que c'est très facile à faire. En fait, on demande un numéro d'ISBN à la Bibliothèque nationale et puis on fait son. Et donc, j'ai imprimé 1000 livres et puis j'ai fait ma maison d'édition et j'ai publié ça.
Parce qu'on était en quelle année là en...
Et ça, c'était en 95.
Et donc, il n'y avait pas Internet, 94. Il n'y avait pas de... Fallait
non, c'était assez ça. Ouais.
Donc, et après, tu allais les placer dans les librairies.
Et puis après, non. Parce que ça, en fait, je savais que les sociétés qui pratiquaient ce métier, les centrales d'achat, en fait, proposaient aussi à leurs distributeurs des outils pour se former, pour présenter le business. Et donc, en fait, je les présentais aux centrales d'achat qui l'ont distribué eux-mêmes. Et donc ça, j'en ai vendu vraiment beaucoup.
C'est combien beaucoup ?
Et j'en ai vendu près de 200 000 exemplaires pour un bouquin de vente directe. C'était assez marrant.
Et alors, qu'est-ce qui fait le succès quand tu écris en fait ? C'est le style, c'est la sincérité.
Non.
C'est...
Ici, je crois que c'est vraiment en fait, c'était par rapport à un outil qui était. C'est le besoin et le besoin d'avoir ces informations qui sont tournées d'une manière sympa.
C'était pas drôle, quoi. C'était...
Non, c'était pas drôle. Non, c'était vraiment plutôt... Mais sur les tendances socio-économiques et pourquoi ce métier serait appelé à se développer, c'était vraiment le tout début, c'était encore le Minitel, c'était le tout début des téléphones portables, tu vois, mais tu as vu comment en quelques années, comme ça a révolutionné quand même nos manières d'acheter et de travailler. Maintenant, avec Internet, Amazon, on est parti complètement là-dessus. Et je crois qu'il y a quand même encore un créneau maintenant, justement, où tu peux utiliser tous les outils d'Internet et tout, et de garder quand même la proximité et le lien. Je crois que le lien reste important, même malgré les outils Internet et tout. Je pense que ça reste important de garder un contact
de faire
humain.
De la promotion en ligne plutôt que dans la rue, c'est ça, pour un petit commerce.
Oui, non, et surtout aussi de pouvoir garder un service de livraison à domicile, des choses comme ça, tu vois, un peu plutôt que d'être livré par un livreur maintenant il a même pas le temps de venir livrer ton colis, mais il est passé alors qu'il n'est pas passé, donc voilà. Il y a un peu des... Donc ici, c'était une personnalisation d'un service de livraison et tout ça peut être chouette.
Alors, le kayakisme, tu as écrit un livre. Mm-hmm. C'était quand l'écriture du livre ?
Et le kayakisme, ça a été lent comme... Je l'ai écrit une première fois il y a 20 ans. Ouais. Cette image de la parabole du barrage. Je l'ai vendu un petit peu. Et puis, il était épuisé. Et puis, je suis parti sur Mars et Vénus et tout ça. Et mais beaucoup de gens, enfin les gens qui l'avaient lu, ça les avait vraiment marqués, donc c'était très mignon. Très souvent ils me demandaient, mais il y en a plus, merde, j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de le réécrire et de le réactualiser, parce que je pense que cette vision était peut-être un peu visionnaire il y a 20 ans, mais aujourd'hui je pense que, enfin, tu vois, le kayak, le barrage qui est pété, je pense que on le voit, on le vit tous aujourd'hui, quoi.
Ça commence à nous parler.
Ça parle quand même assez vite, quoi, maintenant, c'est ça. Il faut plus expliquer pendant 10 minutes, je pense qu'on l'a assez bien compris. Et donc, cette solution de la rivière, maintenant, tu vois, avant, il y avait beaucoup plus de monde qui était encore confortablement dans leur parcelle, et donc ça leur parlait pas. C'est quoi la rivière? Moi, je m'en fous, moi, je suis bien dans mon... Je vais continuer à grandir ma parcelle, ça marche. Mais je pense que maintenant, il y a une vraie réflexion qui est peut-être qu'effectivement le barrage, ça devient un peu dangereux de rester là, quoi.
Donc la suite, en fait, la perspective pour ça, comment ça se transforme? Le spectacle, il est écrit,
le spectacle est écrit, et donc j'ai fait un petit test, ben on peut pas maintenant avec le, donc avec la Covid, mais il est en train d'être mis sur pied. Oui.
Il est écrit à la rentrée.
Il est écrit, ben j'ai encore réécrit aujourd'hui. Mais il est quasi. Oui, enfin tout est écrit. Le truc c'est que j'écris et puis alors on le joue plus ou moins et puis on voit les choses qui marchent, qui marchent pas et puis justement les réactions de quelques personnes pour voir un peu. La direction dans laquelle on va, les blagues et tout. Donc, mais ça, c'est chouette, moi j'adore. Ce travail de création est vraiment très très sympa à faire.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'argent, techniquement. Tu pourrais t'arrêter, parce que quand tu as tourné 10 ans...
Pas tout à fait quand même, oui, mais enfin oui. Mais ça m'a... Non, j'ai envie de continuer. Enfin, parce que moi, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'envie de projet, d'avoir envie de...
C'est là où je veux en venir, parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi les patrons qui réussissent continue. Mmh. Et on se dit, ils sont fous.
parce que l'argent n'est pas le but. Enfin, c'est moi, ce que j'ai envie maintenant, c'est d'exprimer qui je suis. Et je l'ai trouvé à travers la scène, tu vois. Et donc, je suis prêt à prendre le risque. Enfin, c'est une partie de moi-même, tu vois. Mais j'ai envie de continuer à exprimer ça. Mais quand tu vois maintenant, alors, la retraite, c'est bien si tu t'emmerdes dans ton boulot, etc. Tu vois, je me souviens, il y a quelques temps, c'était triste, mais c'était dans un séminaire que j'animais. Il y avait un gardien de prison qui détestait son métier. Il y en a qui aiment bien. Je suis certain qu'il y a des gardiens de prison qui trouvent du sens à ce qu'ils font. Et c'est génial. Mais lui, il détestait ce qu'il faisait. Et il me dit, mais en fait, je reste là parce que j'ai plus que 22 ans avant la retraite. Waouh. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait peut-être pour certains gardiens de prison, les peines étaient plus lourdes que les détenus. Quoi.
Le gars, il a pour 2 ans, toi, t'es là pour 22.
C'est ça, 22. Mais il le disait sérieusement, tu vois, pour lui. Enfin, et tant mieux, enfin, tu vois, je suis pas là pour juger, mais ça m'avait un peu frappé quand même. C'était de dire que lui, il était vraiment, mais j'ai ma parcelle, j'ai ma sécurité, et à ma retraite, je vais enfin être heureux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui aiment leur métier. C'est une horreur de partir à la retraite. Enfin, il y en a qui meurent dans les 6 mois après parce qu'ils se sentent plus utiles. Ils sont, enfin, travailler aussi. Enfin, ils savent même pas travailler, mais c'est dans des projets qui nous tiennent à cœur et tout. C'est ça qui nous maintient en vie. Pour moi, le sel de la vie, c'est d'avoir des projets. C'est quand t'as plus de projets que t'as plus envie de vivre. Pour moi, et c'est ça qui est horrible dans les maisons de retraite et tout maintenant où tu vois des gens qui attendent la mort. Je me dis, quel est le but de vivre si c'est juste pour attendre la mort, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Et comment tu arrives à... Parce que quand on est patron, entrepreneur, ou comme on veut, quand on se lance dans des projets, ça devient potentiellement très consommateur de temps. Mmh. Et ça, quand tu faisais des spectacles, tu as dû le ressentir. Ouais. Tu me disais que c'était 200 dates par an, mmh. C'est ça? Bien costaud, partie. Voilà. C'est... comment est-ce qu'on peut arriver à concilier famille, amis, loisirs, travail?
Il y a c'est des périodes de vie aussi. À un moment donné, tu investis plus sur une activité plutôt que sur une autre et tout ça. C'est essayer de trouver l'équilibre qu'on trouve quand on peut, comme on peut.
Est-ce qu'il faut travailler avec ses amis, sa femme et...
Tu peux. J'ai pas eu beaucoup de vie sociale parce que effectivement toi les dîners, les trucs et tout ça, j'étais toujours en train de jouer et ça maintenant je me dis tiens, faisait que j'ai peut-être, enfin toi, j'ai pu louper des choses et en même temps j'ai vécu des trucs fabuleux, mais le truc aussi c'est toi, quand j'étais à la maison, j'étais totalement à la maison, donc c'est un peu l'idée aussi, c'est de, il y en a qui sont présents sans être présents, tu vois, tu peux passer des heures sans connaître tes enfants si tu mais le truc c'est quand j'étais là, je quand ils étaient plus petits, etc., je passais vraiment du temps. Puis il y a des moments où des moments privilégiés, puis on a combiné des vacances avec mes tournées, et puis enfin, donc oui, on a essayé de trouver la combinaison, mais est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est parfaite, est-ce qu'on aurait pu faire mieux, difficile à dire.
Il y a des outils, des choses qui existent pour arriver à se dire mais comment je concilie, comment je...
Il y a la discussion que tu as avec ta famille, avec les gens avec qui tu t'entoures. Est-ce que c'est encore tenable pour toi? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que tout le monde s'y retrouve dedans? Et c'est important d'en parler, oui.
Parce que du coup, dans un modèle kayak, la famille, elle est peut-être moins grande, moins bien structurée, plus flexible ou...
C'est un équilibre de tous les instants pour moi à trouver entre les... les concessions qu'on fait, entre les envies qu'on a. Oui, c'est un. Moi, j'ai, en fait, j'ai une image de différents réservoirs d'amour. Il y a un réservoir, c'est l'amour d'un partenaire de vie. Et puis à côté, il y a le réservoir d'estime de soi. Et puis il y a le réservoir d'amour de nos enfants, l'amour de nos parents, l'amour du divin, l'amour des gens, justement des amis, etc., d'un truc que tu fais en, entre potes. Et puis l'amour de le sens de la contribution. Donc j'ai sept réservoirs comme ça. Et donc ils se remplissent plus ou moins, ils se remplissent différemment. Tu vois, les formes d'amour sont complètement différentes. Le bonheur d'être sur scène ou d'aider des gens, tu vois, le sentiment de contribuer à quelque chose en partageant un spectacle, ça n'a rien à voir avec l'amour de mes enfants ou de ma femme, etc. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Et donc c'est là où c'est important de trouver cet équilibre là, tu vois, c'est où en sont mes réservoirs. C'est un peu comme ça que j'ai raisonné.
Parce que avant c'était un peu plus facile, on te disait tu es 35 heures au boulot. Mmh. Ensuite, tu vas chercher tes enfants à 17h. De 17h à 20h30, tu es avec tes enfants. De 20h30 à 23h, tu es avec ta femme. Le week-end, il y a les amis. Et en gros, tu peux caler une vie. Et quelque part, c'est reposant de ne pas se poser de questions. Tu vois, quand. C'est calé, quoi. Et quand ça rate, tu peux même te dire ah bah, c'est pas de ma faute, j'ai tout bien fait dans la recette.
Mais je pense, enfin, c'est ça l'évolution de la société aujourd'hui, c'est que avant, il y avait trois tranches. T'étudiais pendant 20 ans, tu travaillais pendant 40 et tu te reposais pendant 20, quoi. Ou, maintenant, tu peux plus ne plus étudier quand tu travailles, quand tu étudies, tu travailles aussi, quand t'es à la retraite, tu te reposes, mais il y a plus ces trois tranches de vie et dans la journée non plus, tu n'as plus ces strates, là. Moi, je trouve que c'est chouette. Parce que j'ai appris à vivre comme ça, mais je peux imaginer que pour certains c'est complètement dérangeant. Tu vois, quand il y a des gens qui commencent à travailler de chez eux ou quoi, ils se disent qu'ils doivent faire un tour du pâté de maison avant de pour aller au boulot, pour se dire maintenant je change des. Oui, il y a des gens qui font ça.
J'avais vu un sketch de Brut là où il disait moi pour pas changer mes habitudes, je prends mon café à 10h30 puis je jette 50 centimes par la fenêtre.
Oui, c'est ça. et moi justement, c'est là aussi, c'est du Mars et Vénus aussi, mais c'est comprendre les fonctionnements masculins et féminins, tu vois, le côté séquentiel ou multitâche. Tu vois, le masculin est plutôt séquentiel, un truc à la fois, donc il aime bien mettre des choses dans des cases et tout. Le féminin est plutôt je commence un truc, je continue l'autre, je reviens au premier et tout. Donc et quand tu es en télétravail, etc., tu es obligé d'être multitâche, tu peux pas.
Elles sont plus orientées kayak que nous, les femmes, de base?
Non, parce que t'as les deux pagaies. Tu as vraiment, en fait, le masculin pour moi, c'est le masculin, c'est avoir un objectif. Si tu imagines que la vie est un voyage, en fait, le masculin regarde la destination et les moyens à en mettre en œuvre pour arriver dans les plus brefs délais. Et le féminin s'intéresse au bien-être de tous pendant le trajet. Et c'est pas un qui est bien, l'autre qui est mal, c'est qu'on a besoin des deux aujourd'hui. On a été un peu trop dans le barrage sur l'objectif à atteindre. Même si c'est la terre brûlée, on s'en fout. Mais il faut pas être trop féminin non plus, où on est là en tournant en rond sans rien foutre, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc c'est là cette combinaison des deux, tu vois, entre la destination et comment on y va aussi. Et quand tu parlais de mission tout à l'heure dans les entreprises, je crois que c'est ça, tu vois, tu retrouves un équilibre entre la rentabilité qui est indispensable et aussi mais pourquoi on le fait, quoi. Et qu'on soit bien ensemble en train de le faire, que ça ait du sens pour nous. Donc c'est cet équilibrage dans lequel on est aujourd'hui, à mon avis.
T'es allé voir les entreprises libérées? Parce que quand on parle de l'entreprise à mission, ça fait penser à Isaac Goetz, que j'espère bien rencontrer un de ces quatre, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'entreprise libérée », et il explique qu'il faut casser les hiérarchies au profit d'une responsabilisation de chaque personne dans l'organisation.
Mais il y en a une des pionnières en France, c'était l'entreprise Favi. Je ne sais pas si tu as... C'est une fonderie dans le nord de la France, qui fabriquait des leviers pour arbres de vitesse, des fourches, pardon, pour arbres de vitesse en cuivre. Ils avaient 50% du marché, les 50% étaient en Chine. Et ils s'étaient 500 là-dedans. Et en fait, c'est Jean-François Zobris, qui est à la retraite, qui avait remis cette fonderie vraiment, qui était au bord de la faillite, et ils ont vraiment retravaillé là-dessus. Il l'a fait sur un modèle d'entreprise libérée qui portait pas encore ce nom-là à l'époque. Mais il a dit notamment, il a arrêté toutes les pointeuses dans l'entreprise. Il a eu la trouille de sa vie parce qu'il dit tout le monde va profiter du truc et tout ça. Il s'est rendu compte que la productivité avait augmenté. Et quand il était voir les ouvriers après, il s'est dit mais pourquoi ? Il a dit parce qu'avant, on savait bien que l'année suivante, on allait nous en demander d'en faire un peu plus, donc on en gardait toujours un peu sous la pédale. Et il disait aussi, en fait, le métier de mettre le cuivre dans les machines, etc., est assez physique. Et en fait, il y a un certain rythme naturel que tu adaptes. Et quand tu fais 1h10, en fait, les 10 dernières minutes, il y a une productivité bien plus forte que les 20 premières minutes. Mais quand on leur disait, vous travaillez 1 heure, ils s'arrêtaient après 1 heure. Et donc, en fait, ils auraient travaillé 5 minutes de plus et ça rentabilisait beaucoup plus le truc. Et donc, quand ils n'ont plus ils n'étaient plus contrôlés par rapport au temps qui passait, en fait, naturellement, ils ont été vers la meilleure productivité pour eux. Et donc, il a mis en place plein de trucs qui étaient vraiment incroyables. Et donc, moi, j'adore cette idée d'entreprise libérée. Mais c'est un travail c'est quelque chose qui doit partir du dirigeant, des propriétaires. Quoi. Il y a un bouquin de Lalou qui a écrit il y a quelques années, un bouquin, c'est un belge, Frédéric Lalou, je pense. Ouais. Reinventing Organizations en anglais. Justement sur l'entreprise libérée. Il parle d'une entreprise qui est incroyable aussi, qui s'appelle Burzorg. C'est des infirmiers en Hollande. Le système libéral en Hollande est assez, assez développé. Et donc, des années 90, rentabilité, donc qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de serrer tous les problèmes en disant voilà bon on nomme chaque acte que fait un infirmier combien de minutes il doit passer à faire cet acte là on essaie de voir les infirmiers les plus compétents enfin sur les plus spécialisés sur les actes les plus difficiles et puis les plus petits actes c'est quelqu'un d'autre qui les fait comme ça on perd pas quelqu'un qui est payé plus cher à faire des trucs qui sont moins valorisés etc. Et ils étaient arrivés à mettre même des codes-barres sur les portes des patients. Ils arrivaient, le mec devait mettre son code-barre, voir combien de minutes il passait et tout. Et c'est Jos de Bloch qui était un des infirmiers. Il dit, moi, j'en peux plus ce système-là. J'ai perdu mon âme. Enfin, je suis là en train de courir. Les personnes, ils appellent un center call. Ils savaient plus qu'ils avaient au téléphone. Et parfois, il y avait 5 infirmiers qui passaient dans la journée pour faire les soins différents. Enfin, c'était un truc complètement fou qui avait été mis par des technocrates qui étaient qui contrôlait le temps de tout le monde, etc. Et de Bloch a dit, moi, j'en peux plus de ce truc-là. Et il a réinventé complètement le système. Il s'est dit, moi, on va faire des petites équipes de 12 personnes, 12 infirmiers. Ils ont leur centre d'appel. Ils s'organisent entre elles. Elles s'organisent entre eux. Ils vont voir chacun des patients. Ils prennent un café avec eux, etc. Ils vont voir les voisins pour dire, tiens, vous voyez, il y a une personne qui est âgée, qui est à côté de chez vous. Est-ce que vous pouvez l'aider de temps en temps et tout ça. Et donc, il s'est rendu compte, donc en quelques années, ils ont eu 3/4 du marché des infirmiers. Tous les infirmiers sont venus chez lui, les infirmières. Il y a eu 7000 personnes qui sont arrivées en quelques années. Et en faisant une étude d'impact, on s'est rendu compte que si on faisait la même chose en France, on économiserait 10 milliards d'euros à la Sécu. Parce que les gens étaient moins souvent malades, rentraient plus vite de l'hôpital, guérissaient plus vite, se remettaient plus vite sur pied, etc. Enfin, donc, mais c'est toute cette prévention qui est faite et grâce au fait de retrouver l'humain et par une autre organisation. Donc tu vois, le barrage, la rivière ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte de la rentabilité ou de l'organisation, c'est une autre organisation. Mais quand tu la mets au départ de l'humain, en fait, tu retrouves une énergie que tu n'as plus dans le barrage. Et donc il y a plein d'exemples comme ça. Et alors le truc, c'est la volonté humaine et politique aussi parfois peut-être de prendre le risque de mettre ça en place.
Est-ce que les politiques sont capables d'organiser la transition vers la rivière alors que... Est-ce qu'ils sont la solution ou le problème ?
C'est la grande difficulté. Je crois que c'est là où je pense qu'ils sentent les deux. Ils sentent qu'effectivement, ils sont tiraillés entre des gens qui leur demandent de protéger moi du barrage et d'autres qui disent « mais laissez-moi courir dans la rivière ». Et c'est deux organisations sociales qui sont complètement différentes. Et aujourd'hui, le poids électoral de ceux qui leur demandent de rester encore dans le barrage est à mon avis plus fort encore. Et donc, à partir de quand, jusque quand et tout ça, J'ai pas de réponse, mais je pense que les nouvelles générations de politiques vont. Enfin, ça paraît de plus en plus évident que la vie est en train de s'organiser dans la rivière.
Alors, les nouvelles générations de politiques, ouais. Qui enfin, pas qui, mais. Parce qu'ils sont là depuis.
Non, les nouvelles générations, vous, en fait, les nouvelles générations, pas spécialement de politique, mais donc on va élire d'autres personnes, ou d'autres personnes vont émerger, à mon avis, par rapport à une évidence qui est que il faut organiser les choses autrement. Mais tu as les démocraties directes, plus participatives, etc. Enfin, je suis sûr qu'il y a plein de projets encore qui sont embryonnaires. Tout ne va pas réussir et tout. Mais j'ai le sentiment vraiment qu'il y a tellement de choses qui foisonnent dans le monde aujourd'hui, des nouvelles idées, des projets, d'autres manières de faire, de s'organiser. Au niveau de la finance aussi, on en parlait tout à l'heure. Mais ça va changer complètement.
Est-ce que ce n'est pas une remise en cause de leur pouvoir, en fait, que de vouloir dire on ne veut plus qu'on nous dise quoi faire, mais nous donner les moyens de faire? Est-ce que c'est pas une attaque frontale, comme à la suite des Gilets jaunes, où on disait on veut le référendum d'initiative populaire, et puis le président nous expliquait que c'était pas démocratique de voter directement des trucs. Tu vois, on se dit bon.
Mais le truc, c'est que quand tu as grandi dans un système, quand tu as été élevé, tu crois que ce système-là, on a grandi sur ce lac, et eux ont excellé, justement, ils sont brillants et tout ça, ils ont des belles parcelles et tout, donc ben, je comprends que dans leur logique à eux, c'est important de garder cette manière de vivre, hein.
L'ENA, c'est l'École nationale de l'aviron, quoi.
C'est pour ça qu'ils ont changé de nom maintenant, tu vois, bon, en Corée du Nord, les gens sont persuadés que leur vie serait pire sans Kim Jong-un, quoi. Donc nous, on est persuadés en fait que cette idée de croissance, c'est ça qui va nous sauver. Et il y en a qui le croient sincèrement. Tu vois, je pense pas qu'ils jouent pas avec ça. Ils sont convaincus. Mais les faits vont, à mon avis, tu vois, on est un peu comme moi. Je nous vois un peu comme la société, un peu comme le Titanic, où l'équipage est en train d'alimenter le buffet plutôt que de s'occuper du trou dans la coque. Quoi. Et c'est beaucoup de boulot de s'occuper d'alimenter le buffet. Tu vois, on est actif et tout ça. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est peut-être qu'il faudrait former les gens à construire des radeaux de sauvetage ou faire d'autres choses peut-être.
Souvent, ouais. En ce moment, je discute pas mal autour du Bitcoin, et c'est quelque chose où on se dit le risque principal de cette nouvelle forme de monnaie désintermédiée, donc sans les banques, donc sans l'État. Le principal problème, c'est l'État, parce qu'on est en train de lui expliquer que finalement, s'il s'en mêle pas, on saura faire. Et voilà, je me dis, c'est finalement, à un moment, ça frotte.
Ça va frotter. Mais c'est là où, moi, je pense pas qu'on puisse faire complètement sans aide. Enfin, l'idée de la rivière n'est pas l'anarchie. Je crois qu'une organisation est importante. Je pense que c'est important de garder une certaine, avec des règles quand même, de vivre ensemble, qu'on peut pas se cogner, on peut pas aller foutre de plein de polluants dans la rivière parce que ça va emmerder tout le monde. Donc, je suis encore pour une forme de solidarité aussi, d'aider quelqu'un qui va pas bien. L'idée, c'est pas de lui couler ou ferme ta gueule. Moi, je crois que la solidarité reste importante et tout ça. Mais simplement, elle va s'organiser autrement. Et les États vont, à mon avis, se réinventer. Mais c'est vrai que si tu as encore... une autre image que j'ai aussi, c'est que tu imagines que les marins qui ont embarqué à bord des caravelles du Christophe Colomb, ceux qui pensaient que la Terre était plate n'ont pas été les plus enthousiastes à l'idée de monter, quoi. Donc si tu penses qu'au-delà du barrage, il n'y a que le néant et le chaos, ben, c'est normal que tu fasses tout en ton pouvoir pour maintenir cette organisation-là, tu vois, et c'est pas de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté, tu vois, c'est aussi de dire, mais au-delà, il n'y a rien. Et nous, on est en train de dire, mais oui, non, il y a plein de trucs, il y a des trucs merveilleux.
On a entendu il n'y a pas de plan B.
Oui, c'est ça. Non, il y en a, il est là. Mais il faut y aller pour le voir, il faut y croire. Et je crois que ça va changer.
Pour la démocratie directe, ce qui m'étonne, c'est qu'on a un modèle pas très loin qui s'appelle la Suisse. Et a priori, bon, c'est pas l'anarchie, hein. Ils sont pas réputés pour être les plus... Et tu connais le président suisse?
Non, son personne ne le connaît.
Non, on s'en fiche, c'est pas lui qui décide. En fait, tu vois, je me dis, c'est pas juste une question de mentalité. On sait bien que ça marche. On a un des pays les plus riches au monde qui fait depuis un siècle.
Mais c'est pas ce qu'il fait depuis un siècle. C'est ça le truc, c'est le changement qui est compliqué.
Mais pourquoi nous on se dit, mais nous on n'est pas capable? Chaque fois que je pose la question, on me dit, non, mais le français il est trop con. Enfin, il est trop ci, il est trop ça, il est trop.
Non, parce que le truc, c'est que on rajoute des feuilles au millefeuille, mais on ne change pas complètement l'organisation. Et le truc, cette fois en Suisse, ce qui est génial, c'est que la démocratie est restée. Enfin, les décisions sont prises au plus près des citoyens à chaque fois. Pour la culture, c'est à la commune. C'est pas un ministre, qui est à Paris qui prend les décisions. Et donc, en fait, comme ils sont capables de rester au plus près possible, et c'est pour ça qu'il y a, comme en Belgique où nous on se tape sur la gueule entre les Flamands et les Wallons, en Suisse ils se tapent pas sur la gueule entre les francophones et les Allemands, parce que ils s'en foutent. Ils sont bien chez eux chacun. Ils sont quand même ensemble sur certains trucs qui sont super importants, mais sur tous les petits trucs du quotidien, ils font leur truc, font leur beurre chacun. Et donc, en fait, c'est ça. C'est plus tu restes près plus les décisions sont prises au plus près, au plus c'est facile. Mais c'est complètement à l'inverse de ce qui a été fait en France, la centralisation, l'esprit jacobin, la centralisation, les grandes décisions à Paris, et puis on descend de bas en haut. C'est complètement l'inverse.
Quelle est la première étape quand on commence à réfléchir à ça? Parce que moi, une des questions, je me souviens, c'était ma femme qui m'avait emmené, qui m'avait dit, ah, faut regarder, faut qu'on parle de notre couple, tout ça.
Chier, c'est là.
Alors tu dis non, et puis après, quand t'as fait une connerie ou deux, tu dis bon, allez, on va parler du couple. Non. Et on avait regardé le film Les hommes de Mars et les femmes de Vénus, très bien. Et ce qui était intéressant, c'est que ce spectacle était très positif. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il contenait en soi des pistes pour s'en sortir. Mm-hmm. Et bon, on n'avait pas ça débouché, pas sur quelque chose. Tu vendais rien à la fin, quoi. Voilà. Ça, ouais. Et mais c'était quand même, je me dis, c'est positif, quoi. Mm-hmm. Tu peux le re-regarder, tu retrouves des idées. Mm-hmm. Sur le kayakisme, c'est quand même un peu plus pentu. C'est-à-dire que tu dis aux gens, va falloir changer votre vie, parce que ton couple, l'améliorer, le bricoler, le refonder, mais il est déjà là, tu sais à quoi ça ressemble, c'est connu, quoi. Ouais. Tu vois, bon, ça reste ta femme. quelle est la première étape pour quelqu'un après qui se dit, ouais, c'est sérieux, je fais face à un vrai problème. Mm-hmm. Bon, c'est quoi la première marche?
La première marche, c'est commencer justement à une petite introspection, de dire, tiens, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, de pouvoir commencer à réfléchir. Une autre chose aussi, c'est de prendre conscience de la petite voix intérieure qui te sabote très souvent, qui te dit, je suis pas capable, je suis trop là, je suis pas assez là. De commencer à l'entendre, à se rendre compte que c'est pas toi, et que cette voix-là, tu peux la changer, tu t'es pas né avec, et tu peux transformer cette petite voix.
Parce que c'est quoi cette petite voix
concrètement? C'est un dialogue intérieur que tu as avec toi, c'est ces petites voix. Mais c'est ce que, en fait, c'est, tu répètes en boucle ce que tes parents t'ont dit, ce qu'un prof t'a dit, ce que t'as entendu d'un prof jaloux, d'un frère jaloux, et tout ça. Enfin, c'est tous ces trucs-là, sois prudent, toutes ces injonctions, t'es pas assez, t'es pas si, t'es pas trop, etc. Et donc, quand on arrive face à un projet, pourquoi est-ce qu'on dit je suis pas capable? C'est pas nous qui le disons ou quoi? En fait, c'est cette petite voix intérieure qui nous sabote. Il y a un petit test très simple qu'on peut faire, tu vois, par rapport à cette petite voix-là. Tu te mets devant ton miroir tout à l'heure, tu te regardes vraiment pendant quelques secondes, et puis c'est toi et toi, hein, tu vois, vous êtes là tous les deux, et puis à haute voix, tu prononces, tu dis « Richard, je t'aime ». Et puis tu vois directement la petite voix qui va arriver, qui va dire « Mais quoi, pour qui tu te prends? T'as vu ta gueule, t'as vu ci, t'as vu là, tu t'aimeras quand t'auras réussi ça et ça et ça, mais maintenant non. » Donc tu vois, et donc tout ce sabotage là que tu peux avoir dans ta tête, c'est t'en prends conscience un petit peu, et puis après tu peux le travailler.
Tu l'as fait, ça, cet exercice?
Ouais. C'est marrant, hein.
Et après, tu sais quoi, t'entames un dialogue avec toi-même, tu t'assois, genoux assis sur une table de négociation,
et puis on discute un petit peu, et puis justement quand maintenant petit à petit, quand j'entends cette petite voix là, j'ai travaillé depuis longtemps, mais tu vois, je la remplace petit à petit par d'autres phrases du genre je suis capable, j'ai toute ma place dans ce monde, je suis digne d'amour, tu vois, des choses, mais il faut, tu vois, petit à petit, j'ai toute la place dans la rivière, tu vois, j'usurpe la place de personne, et donc tu recrées une sécurité intérieure, en fait, plutôt que d'essayer de remplir ce réservoir d'estime de soi, tu vas le remplir de l'extérieur en essayant de quémander l'amour ou l'admiration d'autrui. Tu vois, regarde ma belle bagnole, regarde comme je gagne de l'argent, regarde ci, regarde là, aime-moi, parce que comme t'es pas capable de t'aimer toi-même, de t'accepter tel que tu es, tu vas aller quémander l'amour ailleurs. Mais quand tu fais ça, en fait, il y a des trous dans le fond du réservoir, ça n'arrête pas de couler. Et à un moment donné, ce qu'il faut, c'est boucher un peu le réservoir et de le remplir de l'intérieur. Et c'est comme ça que tu vois des personnes bien dans sa peau, on dit qu'elles rayonnent. Parce qu'un peu comme le soleil, c'est une chaleur, c'est la chaleur humaine qu'elle dégage de son intérieur qui fait que son entourage a envie d'être proche d'elle. Quand tu es avec quelqu'un qui te pompe ton énergie tout le temps, tu vois, pour se remplir ce réservoir de l'extérieur, c'est épuisant.
T'as des bouquins ou des ressources? Alors évidemment, le livre plein. Sur le kayakisme.
Oui, non, oui, mais là-dessus, il y a plein de.
Oui, mais des biens, parce que le problème, c'est qu'il y en a plein, et les développements personnels, ouais, entre les gourous, les guignols, les. Ouais.
Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Louise, des auteurs, si tu veux, et puis après, dans les livres, il y a Louise E, H-A-Y, très sympa. Il y a Alice Miller aussi, ça, c'est une ancienne psychanalyste suisse-allemande. Emmy Deuzeler, Alice Miller, Stephen Covey, un grand classique, mais qui, enfin, moi, c'est quand même.
Covey, c'est écrit comment?
Covey, C-O-V-E-Y. Les 7 habitudes des gens efficaces. Tu as Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Mais il y a vraiment beaucoup de. Il y a des vraies richesses dans la lecture. Toi, un des trucs qu'on peut faire aussi, aller dans une bibliothèque, aller à une librairie quelque part, etc. Et puis tu te laisses inspirer. Tu regardes, tu vas dans le bouquet, tu vas dans le rayon développement personnel, psychologie ou quoi, et tu regardes, et puis tu prends, un peu au hasard. Laisse ton intuition te guider. Eric Fromm aussi, Avoir ou être, d'Eric Fromm, très important aussi.
Comment s'écrit Fromm?
Fromm, Fromm.
Et du coup, un message un peu de motivation pour passer le cap
ou et motivation, par rapport à la peur, par rapport au barrage et tout. Alors chacun, on peut imaginer que le barrage est énorme ou petit. Mais c'est mon ami japonais qui me le résume en un mot, yaka kayake.
Merci Paul.
Avec plaisir Richard. Merci.
Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne.